Bienvenue sur Digital On Track. Je m'appelle Reda Jamil, entrepreneur et dirigeant de Araou, agence de conseil en transformation et croissance digitale. DOT me permet de partager avec vous les expériences d'entrepreneurs et de dirigeants inspirants qui se lancent, innovent, transforment les usages grâce au digital. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Montard, le cofondateur de Vodéclic, la plateforme de e-learning revendue à Skillsoft. Dans cet épisode, Guillaume nous raconte la vente de sa boîte comme si on y était, avec les moments de doute, l'incertitude, la négociation, les effets psychologiques, l'importance du timing. Bref, si vous voulez vivre la vente d'une start-up de l'intérieur, vous allez vous régaler. Mais on ne va pas parler que de ça, puisque Guillaume est actuellement CEO de Bearer, sa nouvelle start-up. Bonne écoute!
C'est alors nous on n'investit pas, donc ce qu'ils nous disent c'est nous on n'investit pas dans des boîtes, par contre on en rachète. On a dit on arrête le roadshow de levée de fonds, mais on l'a jamais dit à Skillsoft. Ils ont cru jusqu'au dernier moment qu'on était en levée de fonds et en roadshow parce que c'était notre seul moyen de pression. Donc dès qu'il faut faire quelque chose, moi ce que je disais c'est dès qu'il faut pisser à droite ou à gauche, il faut demander au lawyer en fait. Donc c'est au bout d'un moment, c'est assez fatigant.
Hello Guillaume, tu es le CEO de Bearer, donc c'est un SaaS B2B qui a vocation en fait à simplifier la gestion des API. Alors je le dis en deux mots, mais on va revenir sur le sujet, c'est ce qui permet à deux services produits de communiquer entre eux. Je le dis avec mes mots de profane.
Très bien.
Donc c'est un sujet dont on va effectivement parler parce que je me suis aperçu en fait de l'importance que ça prenait. Je lisais une étude Gartner où c'était 98% des boîtes qui soit utilisent des API, soit consciemment, soit inconsciemment, c'est-à-dire via d'autres services. Donc forcément, là, il y a un vrai sujet. Du coup, là, je parle de chiffres de 2021. T'as aussi été le co-founder de Vodéclic dans le e-learning, où t'as a priori fait une belle sortie. On va reparler aussi de cette aventure entrepreneuriale. Et puis en parallèle, là, on en discutait un petit peu avant de lancer l'enregistrement. T'es business angel et tu investis dans un certain nombre de start-up, donc ça fait pas mal de sujets que j'aimerais bien voir avec toi. Et puis Guillaume, est-ce que tu peux commencer par te présenter?
Écoute, avec plaisir et merci de me recevoir aujourd'hui. Comme tu le disais, je commence à avoir une petite carrière derrière moi. Ça fait un peu peur quand on dit ça d'ailleurs. Ouais. du coup, ça fait une quinzaine d'années effectivement que je gravite dans la sphère tech et start-up. Mm-hmm. Comme entrepreneur en fait, encore et toujours, même si comme tu le disais effectivement, deux trois activités connexes mais qui sont bien évidemment très très liées et liées à forcément à mon historique. Donc à l'origine, moi je suis ingénieur. Pourquoi je suis ingénieur? En fait, j'ai choisi de faire des études d'ingénieur pour pouvoir faire moi-même ce que j'avais en tête, en fait, et être le moins dépendant possible des autres. C'est vraiment, ça a été vraiment mon driver de pourquoi faire des études d'ingé. Et après, effectivement, ce qui m'a toujours intéressé, c'est la partie produit et business associé, en fait, c'est comment tu mélanges les trois ensemble, la tech, le produit et le business.
Okay.
D'où effectivement d'être plutôt entrepreneur et d'avoir été entrepreneur à l'origine comme CTO, donc très tech, mm-hmm. qui sont quand même mon domaine de formation. Mm-hmm. Et après, effectivement, d'avoir navigué et d'avoir commencé à m'occuper plus de sujets produits jusqu'à business. Aujourd'hui, comme tu le disais, je suis le fondateur et le CEO de Bearer, qui est une boîte très tech, bien évidemment, mais je ne porte pas la casquette technique. C'est mon associé qui la porte. Et donc, moi, je m'occupe de tous les autres aspects. Très différent, en fait, de ma précédente aventure en tant que CTO, pour le coup. Okay. Et c'est ça que je trouve très intéressant au final. Et c'est au global, je pense, dans l'entrepreneuriat et dans la tech, de manière générale, les choses changent et évoluent. Et c'est ça qui est passionnant. Et c'est de ne pas faire la même chose tout le temps, et ton job change tous les ans parce que ta boîte grandit, parce que tu as envie de découvrir de nouvelles choses, et tu as cette chance là de pouvoir le faire parce que tu es entrepreneur.
Je voulais te poser une question autour du code. En fait, souvent quand je rencontre des gens qui sont des développeurs ou qui ont fait qui ont créé de jolis produits en codant, je m'interroge sur la nécessité d'apprendre à coder. C'est-à-dire aujourd'hui, je me dis finalement, alors moi je m'y suis mis alors qu'à la base j'ai pas du tout une formation d'ingénieur. Moi j'ai fait plutôt le parcours, on va dire un peu inverse, d'école de commerce et en me disant bah, pour être aussi indépendant, pour pouvoir au moins faire des POC, ce genre de choses. Et du coup, je trouvais ça assez génial de me dire bah tiens, c'est super intéressant parce que même le raisonnement, la logique, et puis aujourd'hui, on est entouré de choses, donc et c'est un vrai plus. Et je suis partagé entre l'idée de il faut que tout le monde le fasse un peu et que ça devienne un apprentissage basique de l'école. Et en même temps, en me disant bah, aujourd'hui, ça évolue tellement vite que il y a le no-code, il y a plein de choses qui sont faites par les machines elles-mêmes et que c'est presque un métier.
C'est un métier.
mais presque un métier qui va être remplacé lui-même par. Je vois, j'exagère un peu, je pousse le trait, tu vois.
Alors le côté, alors low code, no code, je pense que c'est effectivement génial parce que ça permet à beaucoup de personnes de pouvoir mettre un peu le pied à l'étrier en fait, et de pouvoir commencer à créer et à se poser plein de questions très intéressantes. Ça a de toute façon pas mal de limites inhérentes et c'est très bien. Et c'est là où je pense que dans tous les cas, tu vois la vision de se dire non mais on n'a plus besoin de développeurs, en fait on va développer des algorithmes qui vont coder pour nous, ça fait 30 ans qu'on l'entend, on a besoin de plus en plus de développeurs et ça ne change pas, c'est juste les niveaux d'abstraction qui changent. Et évidemment ce qu'on code aujourd'hui avec le même temps, la même énergie, on code probablement des choses 10 fois plus efficaces et au niveau qu'il y a 10-20 ans, grâce à toutes ces évolutions. Mais au global, pour revenir sur ton sujet de départ, de est-ce qu'il faut apprendre ou pas apprendre, est-ce que ça va être remplacé ou pas, je pense qu'en fait, le sujet n'est pas de devenir développeur professionnel, pour la plupart des personnes en tout cas, mais c'est d'acquérir une culture. Et en fait, cette culture, pour le coup, je pense qu'elle est absolument essentiel. Déjà, c'est une façon de penser, c'est une logique qui est intéressante au global. Mais de plus en plus de métiers ont affaire à la tech d'une façon ou d'une autre, que ce soit que tu fasses du marketing, du biz, de la com, peu importe, ou du produit d'ailleurs, qui sont des métiers comme assez nouveaux en fait quand on y réfléchit, tous les métiers autour du produit. Toutes ces personnes-là, en fait, à un moment ou à un autre, effectivement, et de plus en plus, ont affaire à des développeurs ou à de la technologie.
Complètement.
Et sans cette culture-là, c'est très difficile de communiquer. Et peut-être que c'est injuste, et d'ailleurs, je pense que ça l'est, mais ces personnes ont besoin de faire plus de pas en avant que les développeurs pour comprendre, en fait, l'autre, parce que les développeurs sont rares, chers, etc. Il y a une asymétrie dans le marché, ce qui fait qu'effectivement, quand tu as des équipes produits, market, etc., elles ont besoin de comprendre. Dans tous les cas, elles ont besoin de comprendre, mais elles ont besoin peut-être de comprendre un petit peu plus que le développeur qui, lui, on pourrait lui dire, toi aussi, tu peux comprendre le marketing, etc. Ce qu'il fait, d'ailleurs, mais probablement de façon un petit peu moins avancée que ce qu'on demande à ces personnes-là. Donc, en termes de culture, c'est essentiel. Je sais plus d'ailleurs, je crois que la semaine dernière, quelqu'un me disait que au collège, maintenant, ils apprennent le Python.
Super.
Je trouve ça très intéressant. Après, effectivement, la question, c'est pour aller jusqu'où, pour faire quoi. Mais je pense que c'est essentiel en termes de logique et même de formation de l'esprit. En fait, c'est une façon de voir les choses. C'est comme des maths, mais des maths un peu plus appliquées et probablement un peu plus intéressantes pour la plupart des personnes.
Cool. Parce qu'en fait, je te posais cette question par rapport, tu sais, aux avancées de GPT-3. Je sais pas si tu as suivi un petit peu de OpenAI. Et en fait, c'est vrai que c'est assez bluffant, à la fois les textes qui sont générés par cette IA et les quelques premiers tests que j'ai pu voir sur, j'ai besoin de faire un bouton. Alors, c'est peut-être pour l'instant des choses encore assez basiques. Et puis, t'as le code qui te génère le bouton derrière, qui est plutôt bien fait.
Ouais.
Alors, je sais pas si on va pouvoir aller très loin avec ça, mais ça m'a quand même interpellé, tu vois.
Clairement, on va pouvoir faire des choses, mais, en fait, je pense qu'il faut le voir comme encore un niveau d'abstraction supplémentaire dans la façon de coder. Parce qu'au final, qu'est-ce qui est compliqué aujourd'hui quand on développe un produit? C'est pas d'aligner des lignes de code. En fait, c'est que tout ceci fasse sens, s'emboîte, qu'on ait compris tous les use cases, tous les corner cases. Et c'est ça qui devient compliqué, en fait. C'est aussi traduire les specs produits et business en de la tech, quelque chose qui soit cohérent. Et à mon sens, ça va être une abstraction de plus, comme... Effectivement, il y a 20 ans, tu faisais du C. Alors, s'il fallait, tu vois, là, t'as un iPad devant toi, si cet iPad-là, il fallait développer des applis et le faire en C, on n'en aurait pas un million d'applis.
Ouais.
Ça, c'est sûr et certain. Je pense que c'est un peu la même chose.
Il va y avoir des langages pour des usages ou bien.
Exactement. Et peut-être un peu d'IA. Why not? Un peu d'IA dans tes éditeurs de code et qui te permettent d'être peut-être un peu plus descriptif et donc de t'occuper un peu moins du low level et peut-être un petit peu plus de la finalité de l'usage. Ce sont des très bonnes nouvelles, mais je pense pas qu'on remplacera des développeurs, en tout cas pas de sitôt.
Ok. Du coup, on a parlé rapidement à la DIA quand je te parlais de GPT-3. Et en fait, ça me fait une petite transition sur une des boîtes que tu as créées. Alors, je t'avoue que j'ai pas vraiment tout compris de son activité. Je crois que c'est Yedou. Enfin, je sais pas comment ça se prononce.
Yedou,
Et vous étiez déjà dans, enfin c'était il y a quelques années, je crois 2006, ouais, 2006. Et vous étiez déjà en train de travailler sur du deep learning,
ouais.
Ce dont on parle énormément en ce moment, même quand parfois ça n'en est pas. Est-ce que tu peux me dire ce que vous faisiez justement dans cette boîte et ouais. Voilà.
C'est marrant parce qu'effectivement tu me rafraîchis ma propre mémoire là. c'était à la base c'était un projet d'étude. Les imprimantes laser couleur, mm-hmm. la plupart, alors c'était le cas à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais en fait, quand tu imprimais, elles imprimaient aussi en parallèle, en filigrane, en fait, des petits points jaunes absolument invisibles à l'œil nu,
okay.
Qui étaient capables, en fait, avec ce code, en fait, étaient capables de remonter à l'origine de l'imprimante qui avait fait cette impression,
okay.
de façon invisible, inconnue, etc. Et c'est assez intéressant parce que tu as quelques applications, bien évidemment, dans la sécurité, entre autres. Et en fait, on avait lancé un projet où l'objectif était, un, on scannait et on analysait ces points jaunes qui sont très difficiles à détecter parce que c'est quasiment dans du blanc en fait, en plus avec les technos de l'époque. Et après, de faire des réseaux neuronaux pour arriver à matcher les patterns ensemble et à pouvoir remonter jusqu'à l'origine de l'imprimante en question.
Okay.
Et donc, c'était des réseaux neuronaux, donc basiquement la base du deep learning aujourd'hui. Mais pour être... Déjà, on n'appelait pas ça comme ça à l'époque. Mm-hmm. Et pour être très franc, c'était des sujets... qu'on touchait sans forcément complètement comprendre. Et je suis très, très loin d'être capable de dire que je comprends 5% de ce qui se passe derrière.
Okay.
Mais effectivement, c'était à la base, encore une histoire d'usage, d'avoir une finalité, mm-hmm. et de se dire, bah, a priori, c'était la seule techno qui nous aidait. Et on avait effectivement développé ça à la base dans un projet d'étude. On l'a transformé effectivement en une boîte qu'on a arrêté, je pense, au bout d'un ou deux ans, parce que le marché était un petit peu compliqué, comme tu peux l'imaginer. C'était très, très restreint,
ouais,
les possibilités. On a eu, ceci étant, des discussions très, très intéressantes dans le monde de la sécurité, un monde très clos, très feutré. Voilà, ça a engendré quelques discussions intéressantes,
okay.
mais on n'est pas allé plus loin que ça. Et effectivement, c'était les prémices de tout ce qu'on appelle aujourd'hui deep learning. Mais bon, encore une fois, je suis tout sauf un expert.
Ok. Et du coup, quand des gens de la sécurité vous approchaient sur ce projet, c'est de la curiosité pure et simple. C'était pour essayer de comprendre, pour analyser des documents, pour savoir d'où ils venaient,
ouais.
vérifier en fait l'origine, c'est ça?
Exactement. Donc okay. c'est vraiment de la cyberdéfense.
Ok.
Donc bon, tu peux imaginer qu'il y a pas beaucoup de clients potentiels.
Non.
Et ils se comptent probablement même pas sur les doigts d'une main en France.
Ouais. Et puis là, il faut pouvoir rentrer aussi, avoir les bons ouais. interlocuteurs.
Exactement. Okay. Et il y avait encore des challenges. On n'avait pas réglé tous les challenges non plus, tu vois, techniques associées. On n'avait pas une précision suffisante à mon sens. On aurait probablement pu continuer à investir dessus, mais la réalité, c'est qu'une belle techno n'est pas.
Ça fait pas un bon produit.
Pas un business, quoi. Mmh. Ça fait ni un produit ni un business. Enfin, ouais. ça peut faire un produit, mais en tout cas, un business beaucoup plus difficilement.
Ouais. C'est vrai. Du coup, en 2017, vous partez donc sur Vedeclic. Là, pour le coup, c'est une plateforme.
2007.
Comment?
2007.
2007. Qu'est-ce que j'ai dit?
2017.
2017. Oula, oui, c'est 2007.
Temps,
j'ai fait un saut de 10 ans, mais en fait, non, je voulais dire effectivement 2007, un an après. Donc 2007, Vedeclic, plateforme de e-learning. Ouais. Et là, pour le coup, a priori, tu vois, de l'extérieur. Alors bien sûr, quand je prépare ces podcasts, ça fait un peu un travail où je vais fouiner. Et donc je me dis, mais bon, comment ça vient cette idée? C'est quoi le lien? En fait, on est.
Ah, y a aucun lien. Ouais. À part le seul lien, c'est le désir d'entreprendre et de créer. Me concernant, parce que mes associés sur cette société sont pas du tout les mêmes que sur la précédente. Donc Vedeclic, quand je lance en 2007, c'est probablement mon avant-dernière année d'études encore. Et en fait, c'est surtout la rencontre de deux personnes, dont l'un, donc les deux qui vont être mes associés, Xavier et Gabriel, dont l'un de mes associés qui avait une société de formation à domicile,
okay.
une des premières sociétés en France qui était agréée service à la personne. Tu sais, c'était un petit peu le tout début de ces fameux chèques emploi service, mm-hmm. de 50% de réduction fiscale, etc. Et donc, qui avait monté cette société-là parce qu'il y avait un besoin. Il avait validé le besoin. Tu vois, il avait
okay.
validé vraiment qu'il y avait une grosse problématique de formation sur tous les outils digitaux, donc sur un secteur très B2C mécaniquement, mais aussi il avait validé que c'est pas du tout la bonne manière d'y répondre si tu dois prendre quelqu'un, aller se déplacer, faire une heure de cours, les coûts sont astronomiques. Mm-hmm. Et en plus, les besoins de formation sont infinis. Tu as peut-être besoin là, à l'instant T, tu en auras peut-être plus besoin demain. Ton soft va évoluer, donc tu en auras besoin après-demain, etc. Donc, le gap était gigantesque. Et en y réfléchissant, en discutant ensemble, on s'est dit, mais en fait, il y a vraiment une possibilité de faire ça, mais sous forme asynchrone, okay, et en vidéo. 2007, tu vois, j'ai pas en tête la date, mais YouTube, Dailymotion, c'est... peut-être YouTube, c'est 2004, mais ça a commencé à vraiment exploser vers 2006. Ouais. Donc, c'est vraiment le début de la vidéo en ligne. On commence à en consommer plutôt en masse, on va dire, ouais, pour l'époque. Et c'était de se dire, bah oui, ce média et ce médium à la fois, en fait, sont parfaits pour véhiculer
des offres de formation
sur des usages informatiques. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire? OK, lançons une plateforme de e-learning. Je pense qu'on n'a pas du tout appelé ça comme ça au départ. Hein. Okay. C'est le marché qui s'appelle comme ça, d'ailleurs, qui est un terme pas du tout sexy. Et on a lancé ça sur ce constat, cette expérience, en mêlant avec moi ce que je pouvais apporter d'un point de vue technologique et aussi là où allait le marché en comprenant quelles étaient les opportunités.
Et là, du coup, c'est-à-dire que donc il y a une validation du marché par ton associé. Toi, t'apportes l'expertise technique pour dire bah voilà comment est-ce qu'on peut mettre ça en musique et créer cette plateforme. Et les contenus, comment est-ce que vous les gérez? Parce que alors c'est quel type de formation et comment est-ce que vous gérez les contenus à ce moment?
Alors c'est mon troisième associé qui était plutôt axé sur la partie pédagogique, okay, et donc le contenu. Donc c'est de la formation aux outils digitaux. Donc tu vois, encore une fois, là t'as ton iPad, donc il y a plein d'applications possibles. Ouais. Peut-être que demain tu vas vouloir faire du montage audio et tu sais pas faire du montage audio, même si j'imagine que tu dois te débrouiller un petit peu maintenant. Et donc on allait faire des parcours de formation entiers sous forme de vidéos sur tous les softs en fait qui sont utilisés par on va dire le commun des mortels. Donc nous, notre limite, c'était les softs très professionnels où on allait pas ou peu en général, okay, parce qu'en fait dans les softs très professionnels, le sujet n'est pas l'utilisation du software, mais plutôt comprendre en fait le métier. Et là, c'est notre limite. C'était okay, clairement notre limite. Et donc, on a fait des formations. Alors, je pense qu'à la fin, on doit avoir plus de 50 000 contenus en vidéo. Wow. On les a fait dans 6 ou 7 langues. On allait jusqu'au chinois, au brésilien, etc. Parce que on a démarré, comme tu disais, en validant un marché et un besoin, mais sur le B2C. Et en fait, la société s'est progressivement tournée vers le B2B. Et nos clients étaient les employés de toutes les grosses boîtes, en fait, mécaniquement. Et on vendait principalement aux directeurs RH ou IT ou un mix des deux. Okay. Parce qu'en fait, en France, et pas que en France d'ailleurs, mais au début en France, tu te rends compte que la formation d'outils digitaux, je crois qu'en moyenne, tu en avais une tous les 6 ou 7 ans. Donc, autant dire basiquement que tu n'en avais pas. Et puis, est-ce que tu as envie d'aller 2 jours dans une salle de formation pour faire une formation sur Excel alors qu'en fait, tu as juste besoin de faire un tableau croisé dynamique dans 5 minutes et que tu as un rendu à faire? Non, donc en fait... Aujourd'hui, à l'époque, qu'est-ce qui se passait? Tu googlais, tu passais 2 heures à trouver des forums et perdre ton temps, alors qu'en fait, nous, on apportait une solution en 5 minutes avec ta réponse en vidéo.
Voilà. Et donc là, du coup, le positionnement, c'était aussi d'avoir des vidéos courtes.
Oui.
Donc, il y en avait beaucoup, mais elles étaient courtes. Alors, je reviens quand même à ma question, avant de revenir sur le format, mm-hmm, sur... qui est-ce qui les faisait? Vous sous-traitiez ça?
Non, on les faisait en interne. Ouais. Alors ouais, c'est
parce qu'il y en avait un certain, il y avait un paquet de vidéos.
Je pense que 50 000. Je pense qu'on a fini sur 50 000. Ouais. On a essayé beaucoup de formats différents pour les créer. Et on a vraiment, en fait, créé nos propres process.
Okay.
Et on avait nos propres équipes pour les faire. Ouais. Et dans toutes les langues que je te citais, on avait nos propres équipes à Paris. Wow. Donc on a embauché des personnes qui étaient natives de Chine, du Brésil, d'Amérique du Sud. On a même fait du néerlandais, enfin bref, beaucoup de langues.
Okay.
Et on les produisait en interne parce qu'on avait tout un programme aussi de formation pour les personnes qui allaient produire ces contenus. On avait une méthodologie qui était très importante pour nous. Et en fait, tout l'enjeu, c'était la maîtrise des coûts mécaniquement de la production de ces contenus. Et donc, il fallait pouvoir produire vite et bien. Okay. Pour pas trop cher, dans un monde où en fait, ça on l'a appris des années après, des concurrents pouvaient produire pour 50 fois plus cher que nous. Et donc forcément, l'équation économique est radicalement différente. Et tout ça en fait, c'est des process, une manière de faire, des technos qu'on a construits juste pour nous, okay, et en fait, mélanger tout ça de façon suffisamment intelligente pour arriver à des coûts de production faibles et aussi une vitesse de production très élevée, ce qui faisait que tu pouvais avoir un soft qui sortait et en fait, la semaine d'après, on pouvait avoir un parcours entier de formation dessus disponible pour tout le monde. Et ça, c'était clé en termes de time to market. Et ça, c'était vraiment une partie de notre savoir-faire et donc un mélange de process, de techno, de produits. C'était pas une techno radicalement innovante ou quelque chose de dingue, mais c'est la réunion de tout ça, bien fait. On a eu du temps et quelques années pour arriver à refiner le modèle, mais jusqu'à quelque chose qui marchait excessivement bien.
Ouais, donc en fait là c'est la qualité de l'exécution aussi qui a été un avantage concurrentiel.
Complètement. Qualité de l'exécution, essayer de façon obsessionnelle d'avoir traqué chaque minute perdue même dans le process de production à tous les niveaux, de la définition d'un programme jusqu'à l'enregistrement, jusqu'à l'édition, jusqu'à la publication. Et en fait on a fait en sorte d'automatiser le maximum possible, bien que l'enregistrement, lui, ne s'automatise pas mécaniquement, et on savait qu'il y avait un temps incompressible. Par contre, tout ce qui était autour, il fallait que ce soit comprimé au maximum.
Chapeau. Là, quand tu me dis, tu me décris ça comme ça, j'imagine vraiment, une usine, parce qu'en fait, pour produire autant de vidéos, voilà, je touche un peu du doigt avec les podcasts, et pourtant, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de montage, je suis que dans l'audio, mais c'est déjà pas mal. Je me dis, en fait, que ça doit être un sacré challenge. Ouais. Vous étiez combien, du coup, pour faire ça, surtout si c'était en interne?
Alors, forcément, l'équipe a évolué, toute la boîte a évolué. Je pense que quand on a revendu la boîte, je pense qu'on devait être une trentaine d'employés. Et je pense qu'en production, on devait avoir 8 personnes, quelque chose comme ça.
Okay.
Dans ces eaux-là, tu vois, en termes de ratio, ça revient à peu près à ça.
Okay.
Donc pas forcément non plus, tu vois, besoin de dizaines ou de cinquantaines de personnes. Pas d'offshore, pas de nearshore, tout dans des bureaux à Paris, en région parisienne. Contrairement, effectivement, beaucoup de personnes se sont posé la question, mais... pourquoi est-ce que vous faites pas ça dans des pays à plus bas coût et ça?
Clairement.
Mais parce qu'à la fin, c'est de la pédagogie. On a besoin d'un niveau de qualité assez avancé. Les personnes qui produisent ce contenu, en fait, des personnes qui ont une très bonne formation, qui parlent aussi très bien. Alors le français pour ceux qui faisaient le contenu en français, mais aussi les personnes qui produisaient le contenu multilingue parlaient aussi français. Okay. Et c'est à Paris, c'est l'avantage, c'est d'avoir la capacité d'avoir une communauté internationale très importante.
Carrément.
Et de pouvoir donc recruter les bonnes personnes. Et aussi un point important, c'est que toutes les personnes qui faisaient du contenu n'étaient absolument pas des experts technologiques. D'ailleurs, très loin de là. On prenait plutôt des personnes qui avaient un background plutôt RH, littéraire.
Okay.
C'est très intéressant, à l'opposé de ce qu'on pourrait imaginer.
Excellent.
En fait, ça. Et donc, eux-mêmes devaient se former à l'outil avant même de former les autres.
D'accord.
Et donc, ils avaient cette capacité de retranscrire
avec leur
très pédagogue.
Et pas utiliser des mots techniques qu'on utilise sans faire attention quand on connaît bien le sujet.
Et ça, on a testé, tu vois, on a testé avec différents types de profils, et c'est ce qui marchait le plus et qui est peut-être un peu contre-intuitif, en fait. Mais c'est ce qui marchait.
Ok, super. Et le format des 5 minutes ou des vidéos courtes? Parce que bon, ça aussi, ça paraît un peu contre-intuitif, parce que tu te dis que quelqu'un qui va chercher une formation sur un truc, il va chercher la formation exhaustive. Je fais le parallèle un peu avec Udemy aujourd'hui, qui est le modèle, j'allais dire marketplace de la formation. Où c'est vrai que spontanément, on regarde la formation où il y a 200 heures, même si on sait qu'on va pas regarder les 200 heures ou qu'on le sait pas encore, mais voilà, on se dit mais au moins là j'ai tout.
Alors oui, c'est vrai, mais en fait c'est la granularité. La plus faible, c'est la vidéo, 3-5 minutes.
Okay.
Et après, effectivement, elle était construite derrière dans des chapitres, dans des parcours pédagogiques complets. Et tout l'objectif, c'était de pouvoir avoir, mettons, un salarié, une grande entreprise, de se dire, OK, là, on vient de m'installer une nouvelle version d'Excel, par exemple, ou un nouvel outil que je ne connais pas du tout. Je vais faire mon propre parcours basé sur peut-être 50 contenus différents. Je vais y passer 2 heures pendant 2 semaines tous les jours, et je vais avoir ma formation. Je vais pouvoir être autonome. Par contre, en fait, après, je vais de toute façon devoir y revenir. Et donc, quand je vais devoir y revenir, ça va peut-être être sur une formation pendant 5 minutes, ou alors à l'inverse. Toi, tu es très à l'aise sur ton outil, mais tu vois, par exemple, ta boucle dynamique, tu fais peut-être pas tous les jours, tu t'en souviens pas. Tu vois, ça, c'était un peu notre exemple, notre exemple type phare, exactement, la hantise de beaucoup de personnes.
Ouais.
et ça, tu veux ta réponse en 5 minutes et tu veux surtout pas avoir une vidéo qui dure 2 heures, parce qu'en fait, t'as pas 2 heures à consacrer.
Ouais.
Et surtout qu'à la fin, on s'en fiche que tu saches réellement le faire dans 2 semaines ou dans 3 semaines. Le but, c'est que tu saches le faire tout de suite. Et donc, peut-être tu l'auras assimilé, peut-être pas. Et c'est pas très grave, en réalité. Parce que les compétences informatiques, c'est des compétences ultra volatiles. Et donc, vu qu'elles sont volatiles, il faut pouvoir les acquérir aussi très vite, juste quand t'en as besoin. C'est l'antithèse de la formation traditionnelle où, je te prenais l'exemple, tu pars 2 jours dans une salle de formation avec un formateur. Mais c'est pas possible, ça. Personne ne veut faire ça aujourd'hui.
Ouais.
Enfin, peu de personnes veulent le faire et peu de sociétés veulent envoyer leurs salariés pendant 2 jours sur une formation sur un outil informatique. Ça n'a plus beaucoup de sens. Alors, ça n'a pas beaucoup de sens en 2021. Ça n'avait déjà pas beaucoup de sens dans les années 2010.
Et du coup, c'est quoi le modèle économique de vos déclics à ce moment-là?
Ah bah alors là, je pense qu'on a testé tous les modèles économiques possibles et imaginables. Ouais. On a, alors que je te disais au début, c'était très B2C.
Ouais.
On a commencé à faire du B2B et après on a fait que du B2B. Et en fait, on a monté toutes les échelles. Donc en partant effectivement de l'individu avec du freemium. Grande mode en 2007-2008.
Okay.
Après, tu commences...
Donc le freemium, c'est qu'il y a des formations qui sont gratuites et puis ensuite, au fur et à mesure, bah, pour avoir du contenu un peu plus avancé, payante.
Okay. Exactement. On a testé aussi la pub.
Ok.
Probablement avant ou après, tu vois, je sais plus trop. Okay. Parce que c'était tellement de choses. Ensuite, on a commencé à être quasiment exclusivement premium et donc effectivement sous un abonnement. Époque Deezer, etc., 9,90 par mois, t'as accès à tout.
Ok.
Avec effectivement des abonnements annuels, etc. Et donc là, on a commencé à bien monétiser. On avait plusieurs milliers d'abonnés payants okay. juste en France. Donc c'était assez intéressant. On avait des chiffres qui étaient vraiment vraiment bons pour le secteur. Et en fait, on a commencé à faire du B2B, pas parce qu'on voulait faire du B2B, mais c'est des entreprises nous ont approché en disant ah mais c'est top ce que vous faites. Est-ce que vous pourriez nous proposer votre contenu, votre plateforme pour nos salariés. La première fois, tu te dis, oh, bah, zut, parce qu'on ne fait pas ça, en fait. Puis au bout de 2 minutes, tu réfléchis et tu te dis, mais en fait, c'est modèle économique assez intéressant. Puis qu'est-ce que ça change, exactement? Alors, le qu'est-ce que ça change, il faut le creuser, parce qu'il y a forcément des choses qui changent. Mm-hmm. Mais le cœur du produit, pour l'apprenant, parce qu'en fait, tu es un apprenant, que tu sois chez toi parce que tu veux une formation sur ton soft de photo pour faire ton album ou que tu sois dans une entreprise à faire ton tableau chronodynamique, en fait, t'es la même personne, ni plus ni moins. Donc, le produit est le même, les personnes sont les mêmes, mais effectivement, le modèle économique devient très différent et beaucoup plus intéressant parce qu'en fait, d'un coup, on peut toucher des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de personnes au travers de ces entreprises. Et on a commencé à transformer la boîte en une boîte qui faisait du B2B, tout simplement. On a commencé plutôt SMB et on voulait faire plus du SMB que de l'enterprise parce que le SMB ça va plus vite, c'est plus rapide et tout.
SMB, small medium business.
Small medium business, tout okay. à fait. Et la réalité c'est qu'on s'est heurté au fait que ces boîtes-là ont peu de temps à consacrer au sujet de formation. Et d'ailleurs, la meilleure preuve c'est qu'elles ont rarement des départements RH ou en tout cas quelqu'un qui s'occupe de la formation dans ces départements RH. Donc, pas okay. vraiment d'interlocuteur pour nous non plus. Mm-hmm. Et donc, c'est plus vu comme un nice to have qu'un must have, on va dire.
Okay.
La preuve, vu qu'elles ont personne pour s'en occuper. Et c'était assez difficile, en fait, de réellement pénétrer ce marché-là. On a pénétré le domaine de l'éducation, okay. plus des universités, des bibliothèques, des médiathèques. C'est devenu une très, très grosse ressource. Alors, quand je suis parti, je sais pas, en France, on avait peut-être 50% des médiathèques françaises qui étaient clientes de la solution.
Excellent.
Donc ça, c'est du B2B2C, on va dire, ce qui est intéressant. Et on a commencé à aller plus sur des entreprises plus grosses. Mmh. Et encore une fois, qui nous ont approchés. C'est pas nous qui sommes allés les voir. Je pense que le plus gros client qu'on avait dû signer à l'époque, ça devait être Thales, pour okay. tous les employés en France. Donc, plus de 10 ou 15 000 personnes, je pense.
Ah ouais, là, en fait, tu rentres chez un client, ça t'ouvre 10 000 ou 15
exactement.
000 users. C'est quand même...
C'est radicalement
différent. En termes d'échelle, ça change tout.
Ça change tout. On est rentré chez L'Oréal au niveau monde pour tous les salariés. Donc là, tu changes encore d'échelle. Et donc, toujours le même produit, le même type de contenu. Effectivement, ce qui change, c'est comment est-ce que tu t'intègres. Parce qu'en fait, ils ont des systèmes informatiques complexes. Ils ont d'autres outils de formation. Ils ont ce qu'on appelle traditionnellement les LMS, Learning Management ouais. System. Parce qu'ils achètent déjà de la formation comme ça. Ils ont des formations peut-être plus business, des mm-hmm. formations de sécu, etc. Donc, comment est-ce que tu t'intègres dans leur écosystème? Donc, ça, c'est devenu un challenge technique très intéressant et un challenge sales aussi très intéressant, cette partie intégration. Ce qui, entre autres, m'a fait venir plus tard sur Behrer.
Sur l'intégration d'API.
Exactement, sur les API, tout à fait. Et en parallèle aussi, il y a un autre axe produit à créer parce que notre client n'est plus notre utilisateur. Mm-hmm. Et notre client, c'est ce fameux RH ou la DSI. Et donc, eux, ils ont besoin de reporting, en fait. Ils ont besoin de savoir ce qui se passe.
Qui a suivi?
Est-ce que le niveau progresse, etc. Donc, on a commencé à créer aussi des évaluations associées, toute une plateforme de reporting, etc. Mais la réalité, c'est que si on regarde assez froidement le produit qu'on avait créé en 2007 et le produit qu'on vendait 2015-2014 à ces grandes boîtes, pour l'apprenant, c'était globalement la même chose. Okay. Bien évidemment, c'était beaucoup plus avancé par la suite, mais ça restait la même chose, des vidéos dans un format court, dans des parcours, dans une plateforme, quelque chose de simple, de sympa, qui prenait tous les codes B2C. Et d'ailleurs, ce qui nous a beaucoup aidé en enterprise, c'est que t'es dans un marché, le marché de la formation, moi, ce que je disais à l'époque, alors ça a pas mal changé depuis, mais à l'époque, tu prends souvent le soft le plus horrible qui existe dans l'IT, et en général, la formation est pas très très loin d'être là. c'est les moyens étaient pas très élevés, l'écosystème, les concurrents étaient pas dingues, on va dire. Okay. Il avait pas du tout de code très B2C, de code très technologique. Donc, en tant qu'utilisateur, il fallait faire 50 clics pour faire quelque chose. C'était absolument horrible. Nous, on a créé une plateforme pour des apprenants, pour du B2C. Donc, on a utilisé tous les codes pour faire des produits sexy, simple à utiliser, facile, rien à installer, etc. T'avais des plateformes où, effectivement, une heure après, t'avais toujours pas commencé à faire ta formation. C'est pas possible. Et ça, c'était le monde concurrentiel dans lequel on vivait à cette époque-là et qui nous a beaucoup, beaucoup aidé avec notre ADN B2C.
Et là, quel est le degré de personnalisation quand vous arrivez, par exemple, je sais pas, chez Thales, L'Oréal, est-ce qu'ils vous demandent votre plateforme sur étagère qu'on déploie, alors en dehors des problématiques d'intégration, ou est-ce que là on vous demande quand même des choses un peu plus spécifiques, parce que quand tu touches l'enterprise, des fois c'est un peu ça aussi qui arrive.
On peut le mettre de côté, mais clairement, une grosse partie, c'est quand même l'intégration. C'est un gros, gros sujet. Okay. Comment tu t'intègres
C'est là peut-être qu'il y a des choses spécifiques, alors, du coup.
Là, tu as des choses spécifiques parce qu'effectivement, ils ont déjà des systèmes qui condensent en fait à peu près tous les learning materials en fait que tu peux avoir. Donc, il faut pouvoir envoyer les tiens là-dessus. C'est comme pour le reporting. Ils ont probablement une autre plateforme de reporting on top qui va agréger un petit peu l'ensemble. Et donc, il faut pouvoir s'intégrer dedans. Et le plus tu peux t'intégrer, le plus tu as une capacité de vendre, en fait, parce que tu enlèves un bloqueur, tu enlèves une friction très clairement dans le process. Il y a des aspects sécurité aussi associés, bien qu'on faisait du SaaS et qu'on a toujours fait du SaaS.
D'accord.
Et ça, c'était assez intéressant parce qu'on était souvent l'un des premiers SaaS déployés à cette échelle-là dans ces boîtes-là. Donc, beaucoup de discussions avec les équipes sécu, etc. C'était assez intéressant. On avait la chance de pas non plus faire un soft critique, tu vois, ça reste du learning, ce que je disais. Pas non plus, c'était pas ton CRM, on va dire. Et après, en termes de personnalisation, tu pouvais avoir des questions sur le contenu. Alors oui, ça, est-ce que vous pouvez enlever ces contenus? Est-ce que vous pouvez mettre que ces contenus-là? Est-ce que vous pouvez produire du contenu spécifique pour nous? Ça, c'était souvent la grande question. C'était très stratégique, mais on y répondait un peu sans y répondre vraiment. Donc, on avait une toute petite unité qui pouvait faire un peu de contenu spécifique qu'on vendait en plus. Mais c'était pas l'objectif de faire du business, c'était vraiment de rentrer dans le compte. C'est là où on faisait quand même du SaaS, on faisait le même produit, les mêmes contenus qu'on vendait à tout le monde, mais effectivement il y avait quelques contenus des fois spécifiques pour certains clients, mais c'était d'ailleurs toujours très compliqué mécaniquement. Mais voilà, t'as ce type de personnalisation, mais souvent c'était dans le catalogue. Effectivement, en termes de contenu, c'est le catalogue, nous on veut ça, on veut pas ça. Et après, c'est là où nous, on a pu déployer de nouvelles langues en termes de contenu. C'est « Ah, mais nous, on est… typiquement, nous, on est Air France. » Mais Air France, en fait, c'est Air France KLM. Okay. Et donc, KLM, c'est les Pays-Bas. Donc, il faut du contenu néerlandais, typiquement. Voilà. Et ça, en fait, on a toujours créé du catalogue dans d'autres langues et donc aussi traduire la plateforme. C'est d'ailleurs très, 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 très intéressant à faire dans des langues que tu ne maîtrises pas du tout. Très opportunistique, en fait. Okay. On a un client qui veut qu'on ait 4 langues de plus. OK, on va ouvrir de nouvelles langues parce qu'on pense que c'est des langues intéressantes mécaniquement pour faire du business, pour s'étendre. Par contre, effectivement, on ne va pas forcément répliquer le même catalogue dans toutes les langues. On va faire la base essentielle. Et puis après, on verra
vous allez vous adapter.
Exactement. Mais ça a toujours été fait comme ça.
OK. Moi, c'était aussi un peu ça la question que j'avais en filigrane. Enfin, ce sur quoi je m'interrogeais, c'était savoir si vous avez pu garder votre modèle SaaS vraiment jusqu'au bout.
Toujours, jusqu'au bout. Et ça, alors moi, je me suis battu bec et ongle pour, avec les clients et même en interne, parce que en étant CTO, je voulais surtout pas de personnalisation qui était pas réplicable, en fait, parce que c'était ingérable, en fait, à nos moyens, à notre échelle, à maintenir. Et c'est toujours un enjeu que toutes les boîtes ont et presque de plus en plus de façon intéressante, mais ce côté vous faites de l'on-premise, pas du on-premise, est-ce que tu fais du private cloud, est-ce que tu maintenant alors tu vois, est-ce que tu vas t'intégrer dans l'infrastructure AWS de ton client, etc., qui sont des enjeux aujourd'hui qu'on a à faire face chez Bearer aussi. Mais ça c'était un point clé de comment faire pour ne jamais tomber là-dedans, ne jamais tomber dans la personnalisation qui n'a pas d'intérêt pour d'autres clients. Et l'une des batailles, c'était souvent de dire non aux clients, en fait. Ouais, et savoir dire non aux clients, c'était bien, c'était important, d'autant plus que souvent, ils n'avaient pas l'habitude d'acheter ce type de solution. Et donc, chacun voit midi à sa porte. Et donc, il y a aussi un job d'éducation et d'expliquer, en fait, ce dont vous avez besoin et ce dont vous n'avez pas besoin. Faut écouter, mais il faut aussi savoir poliment dire non.
En 2014, je crois que vous êtes dans les Fast 500, donc ouais. les boîtes, les 500 boîtes qui ont
en Europe les
meilleurs taux de croissance. Et là, c'est pas loin, de la période où vous allez commencer peut-être à parler de sortie ou que vous êtes peut-être approché à ce moment-là, non?
Alors oui, c'est...
On a dû vous voir dans les radars, j'imagine.
Alors oui, c'était assez intéressant. En termes de timeline, de mémoire, si je me trompe pas, on a dû vendre en 2015, en avril 2015, si je me trompe pas. Pour moi,
ouais, il me semble que c'est ça aussi. Ouais, donc c'est ça. Dans les infos que j'ai trouvées.
Ouais, non, mais même aujourd'hui, j'ai du mal à savoir quelle année on est. Donc forcément, me rappeler de ça, c'est toujours plus difficile. Mais oui, c'est ça. C'est avril 2015. Ça doit être le 7 avril 2015 qu'officiellement, ça a été vendu. On avait ouvert une filiale aux US l'année d'avant, avec vocation d'attaquer le marché américain.
Okay.
On commençait à avoir quelques clients aux US. On avait du catalogue en anglais. D'ailleurs, du contenu en anglais, c'est très, très drôle, mais est-ce que tu fais du contenu en américain? Est-ce que tu fais du contenu en anglais britannique?
Ah oui.
Ça, c'est par exemple, ça a été toujours un enjeu assez okay. intéressant.
J'aurais pas dit comme ça, mais
voilà, juste digression à part. Donc on avait commencé à vouloir attaquer sérieusement le marché américain, et donc à ce moment-là, il fallait clairement relever de l'argent. Les US coûtent cher, très cher. On le dira jamais assez. Et donc, fallait relever de l'argent. Donc, on a commencé à faire un tour, en fait, ouvrir un tour. On avait pris un lever banque d'affaires.
Okay. Jusque-là, vous n'aviez pas fait de levée.
Alors, jusque-là, on avait levé une première fois auprès de Business Angel dont je pense 2009, c'est ça.
Okay.
Vraiment pas beaucoup, tu vois, quelques dizaines, je sais pas, une centaine de milliers d'euros, quelque chose comme ça. Et on avait relevé auprès d'un petit fonds, je dirais comme ça, autour de 2012-2013, quelque chose comme 400-500 000 euros.
Okay.
Vraiment pas beaucoup. Enfin, quand on regarde les échelles d'aujourd'hui, c'est ridicule.
Clairement.
Et donc, à ce moment-là, effectivement, faut continuer à s'étendre. Il faut relever. Il faut relever beaucoup pour les US.
Okay.
On avait bien conscience des montants nécessaires. Et donc, on a commencé à faire un roadshow. Et en fait, en parallèle, enfin, on a commencé à faire ce roadshow. Ça avançait, mais c'était pas simple. Les fonds ont souvent eu du mal à financer le marché du e-learning et de la formation, particulièrement en Europe, alors qu'aux US, il y avait des très belles success stories, mais ça a toujours été un petit peu difficile. Donc, c'était pas simple, mais ça avançait, on faisait le roadshow. Et en fait, en parallèle, on a été contacté par Skillsoft, donc qui a fini par nous racheter mi-2015. On a été contacté par, ça devait être le VP acquisition à l'époque. Je suis à Paris, est-ce que vous voulez discuter, prendre un café? Bon, c'est ce genre de discussion, c'est mon associé qui est allé, Xavier. C'est le genre de proposition, tu dis jamais non, quoi.
Clairement.
Bon, ouais, on va écouter.
Parce que juste dans le contexte, quand même, Skillsoft, à l'époque, je crois que c'est une boîte qui venait d'être revendue plus de 2 milliards de dollars.
Oui.
C'est le leader mondial du e-learning. En fait, voilà, le truc, c'est quand le VP acquisition t'appelle.
Exactement, oui.
C'est pas n'importe quelle boîte dans l'e-learning.
Tu as raison de remettre ça en contexte. Effectivement, on les avait... typiquement, on leur avait pris le compte Thales. On leur avait pris quelques autres gros comptes en France.
D'accord.
Et comme tu dis, c'est une boîte qui valait 2 milliards, c'était une boîte qui était en bourse, qui a été rachetée par un fonds de private equity, qui a été re-rachetée par un autre fonds de private equity, une histoire assez compliquée. C'est une des boîtes historiques du domaine, c'est une boîte qui a dû être créée dans les années 97, 98, quelque chose comme ça, qui a racheté énormément de boîtes dans son histoire et qui est devenue ce géant dans le marché du e-learning. Et donc effectivement, nous, on savait même pas si on était dans leur radar, faut être honnête. Les petits Gaulois en France, on a pris quelques-uns de leurs clients, on est 7 ans d'aux US, mais on n'est pas grand-chose comparé à ce qu'ils sont. Et donc effectivement, on reçoit cet email, mon associé va prendre un café, lui explique, écoute, nous, on va aller sur le marché américain, on est en train de lever des fonds, Et en fait, très rapidement, dans la discussion, c'est... Alors nous, on n'investit pas. Donc ce qu'ils nous disent, c'est nous, on n'investit pas dans des boîtes. Par contre, on en rachète.
D'accord.
Ok, bon, soit. Et ça pourrait éventuellement nous intéresser. Donc, il faudrait qu'on en discute. Et donc là, on a commencé tout un process de discussion. Et donc, probablement, je ne sais pas, un mois plus tard, début novembre, ils sont venus à Paris. Alors, effectivement, quand on dit ils sont venus à Paris, ils ne sont pas venus à deux. Hein, ils devaient être 6, 7 ou 8 à arriver.
Sérieux.
Alors là, ce qui était très intéressant, c'est que vu qu'on avait déjà contracté avec cette banque d'affaires pour notre autre show de levée de fonds, mais c'est aussi une banque d'affaires qui fait des acquisitions. En fait, ils étaient à nos côtés et nous ont aidés dans ces discussions. Et donc, on a fait un cycle de 2 jours de discussion pour apprendre à se connaître, à découvrir. En fait, ils nous expliquaient, en fait, nous, ce qu'ils offrent, qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Et c'est très intéressant parce qu'en réalité, on connaissait très mal cette société. Et donc, nous, on a fait la même chose. Et donc, on a commencé à réfléchir, effectivement, est-ce que ça pouvait avoir du sens, est-ce qu'il y avait des synergies possibles, etc. Et donc, à la suite de ces premières discussions, en fait, on a continué à discuter. Ils sont revenus, je crois, un mois après. Pareil, une dizaine facile. On discutait pas tous les jours, mais presque toutes les semaines de quelle serait la synergie, qu'est-ce qu'on pourrait créer ensemble si on vous rachetait. Tout en parallèle, nous, on faisait un roadshow de levée de fonds.
D'accord, ok.
Et en parallèle dans ce roadshow de levée de fonds, on avait des fonds qui nous disaient on ne croit pas trop au marché, machin. Et en fait, t'as envie de dire, mais en parallèle, on discute avec le leader mondial du marché, qui veut nous racheter. Mais bon, soit.
Et là, t'as pas trop le droit d'en parler, j'imagine?
Non. Non, ouais, voilà. Les deux, alors, Skills of savait qu'on faisait un roadshow, levée de fonds. Mm-hmm. Sur la levée de fonds, effectivement, on parlait pas de discussions qui étaient très préliminaires. Mais on a commencé à enclencher des discussions très, très avancées d'un point de vue produit. On faisait des calls tous les 2-3 jours avec leurs équipes produits pour comprendre quelles étaient nos forces, nos faiblesses et comment on pouvait mixer nos produits. Skills of, c'est une boîte très, leurs clients, c'est des clients enterprise avec une techno, on va dire, un peu vieillissante, avec du contenu un peu vieillissant, avec justement tous ces trucs assez horribles dont on rigole beaucoup et dont on se jouait auprès de nos clients pour leur dire arrêtez d'utiliser ces vieux trucs, à utiliser une solution moderne. Et donc on a avancé sur ces discussions jusqu'à ce que, je pense que 2 mois plus tard, début janvier, ils nous ont envoyé une proposition de rachat.
De rachat.
Donc c'est une lettre d'intention, LOI, letter of intention, donc qui est non-binding, ce qui veut dire qu'elle n'engage personne, mais tu signes quand même et en fait elle t'engage d'une façon ou d'une autre. Elle n'engage jamais l'acheteur, mais elle t'engage toi en tant que vendeur. C'est très intéressant comme mécanique de discussion. Mais tu as une première base de discussion avec un montant, avec des terms et avec aussi une timeline. Donc une timeline de quelque chose comme, je ne sais plus, c'était 45 ou 60 jours pour qu'on finalise nos discussions avec un début de prix et aussi d'intention de qu'est-ce qu'on va faire avec vous.
D'accord.
Parce que c'était comme aussi tout l'enjeu, c'est ok, tu te fais racheter, mais c'est pour faire quoi? Et bien évidemment, quand tu rachètes une société comme ça aussi, c'est pour les fondateurs, pour l'équipe, pour la synergie, pour ce qu'on peut en faire. Donc là, on a un peu négocié, on a un peu bataillé derrière. Et après, on est rentré dans le vif du sujet, le plus dur, le plus long et le plus... Le plus indescriptible, qui est vraiment la négociation et les discussions très juridiques.
D'accord.
Pour arriver jusqu'à une signature finale. Et donc là, ça, c'était très compliqué. Ça a pris du temps. Au final, tu vois, on a eu cette LOI début janvier et au final, on a signé le 7 avril. Ça a pris 4 mois.
4 mois, ouais.
Presque 4 mois, ouais. Alors, je pense que la LOI vraiment signée, ça devait être fin janvier. Donc, tu vois, ça a dû prendre 3 mois. On a étendu cette LOI parce qu'on n'est pas arrivé au bout des discussions au terme de la
de la lettre.
Du temps. Eux, ils voulaient absolument qu'on arrête de discuter avec des fonds d'investissement. On leur a dit que c'était pas possible. Donc, on voulait leur mettre une pression parce qu'en fait, ce que notre banque d'affaires nous disait, ils avaient totalement raison, c'est qu'ils prenaient l'image de la seringue. Plus vous avancez, plus vous êtes dans la seringue. Et donc plus ils pressent et plus c'est difficile pour vous d'en sortir, et si ça se fait pas, ça va être très compliqué psychologiquement, pour le moral, etc. Ce qui est très vrai. Et puis c'est difficile de mener deux batailles en même temps, lever de l'argent et vendre. Et d'ailleurs, très vite on a dit on arrête le roadshow de levée de fonds, mais on l'a jamais dit à Skillsoft. Ils ont cru jusqu'au dernier moment qu'on était en levée en de fonds et en roadshow, parce que c'était notre seul moyen de pression en fait, en réalité. Et donc, on a fait toutes ces discussions. Alors, je vais passer les détails, mais une boîte américaine qui rachète pour la première fois une boîte française, c'est les 35 heures, c'est tous ces trucs-là. On a eu des discussions, mais complètement lunaires.
Okay.
On est tombé pile poil au moment de la fameuse loi Hamon, où en fait, il faut que les salariés signent pour dire que eux ne veulent pas reprendre la boîte pour que quelqu'un d'autre puisse la racheter. Genre, que des choses absolument improbables et complètement
stupides. Pour des Américains,
stupides.
Ça doit être...
Lunaire. lunaire. Ouais. C'est des discussions, ouais, c'était, ça a été compliqué. On avait du mal à se comprendre sur certains sujets. Des fois, t'avais beau leur dire, non, mais ça, c'est, ok, ça, c'est ce qui est écrit, mais bon, dans la réalité, ça se passe différemment. Sauf que l'américain, ça marche pas comme ça. Ouais, c'est ce qui est écrit, c'est comme ça se passe.
Loi.
Et voilà, c'est, on a pas tout à fait le même mindset et la même façon de faire les choses. Donc ça, c'était forcément compliqué. Et c'est une boîte aussi qui pèse, tu vois, qui pesait 2-3 milliards. La dernière acquisition qu'ils ont faite, c'était gigantesque. C'était précieux. Plusieurs centaines de millions de dollars.
Okay.
Nous, on était une acquisition intéressante pour le marché français, mais somme toute relativement beaucoup plus petite.
Okay. Il y a prescription, tu communiques sur les chiffres?
Non, j'ai pas le droit de communiquer sur les chiffres. Mais tu vois, à l'époque, on devait faire, quand on était arraché, je sais pas, je dirais qu'on faisait 1,5 million de CA. On était en belle croissance, on était arraché sur un beau multiple d'aujourd'hui sur ton chiffre d'affaires.
Donc, d'accord. Voilà,
tu peux te donner une idée du montant.
Ouais.
Mais ils sont arrivés effectivement avec toute l'armada juridique. Genre en face de nous, on avait 15 avocats dans tous les sujets possibles imaginables.
Ouais,
donc c'était très dur. Je me rappelle qu'on a passé des semaines à la photocopieuse, à photocopier des trucs. Moi, je me suis battu avec leurs avocats en propriété intellectuelle qui ne comprenaient rien de la tech. Mais qui voulait absolument tout savoir et surtout s'assurer que en termes de propriété intellectuelle tout ce qu'on faisait était clean, ce qui était très important bien évidemment, mais c'est très difficile d'avoir cette discussion avec des avocats qui sont censés être spécialisés du sujet, mais
c'est pas leur métier non plus quoi.
Bah normalement il y en a dont c'est le métier, mais bon, il y en a des plus ou moins bons, je pense. Donc ça c'est un peu difficile, et là notre banque d'affaires c'était essentiel de les avoir. Ils les connaissent depuis parce qu'ils ont aussi fait le proxy. Et c'est très important d'avoir un proxy dans une vente comme ça, d'avoir quelqu'un qui parle en ton nom et inversement, parce que tu peux aussi, diminuer les tensions.
Mmh.
Des fois, tu répondrais à quelque chose directement qu'il faudrait pas. Et en fait, si c'est quelqu'un d'autre qui le dit pour toi, c'est beaucoup plus facile, en fait, d'avoir cet intermédiaire. Et on a fini par signer, effectivement, le 7 avril à, je sais pas, un truc à genre 2 ou 3 heures du mat. C'était ridicule. On devait signer genre à 14 heures. Et en fait, 14h, ben non, en fait, 16h, en fait, 18h, donc ils sont venus à Paris, bien sûr. Et parce qu'en fait, il y avait des détails juridiques qui étaient encore négociés jusqu'à 2h du mat.
C'est incroyable.
Et là, c'est là où tu vois que la vie de ces avocats d'affaires est probablement très intéressante, mais aussi absolument horrible, parce qu'en fait, 3h du mat, vous êtes tous là, vous êtes encore 10, etc. Ça arrive souvent. Bah ouais, c'est souvent comme ça. Ok, d'accord. Chacun son métier. bon, effectivement, vous êtes très bien payé, pas de problème et tout, mais bon, c'est dur quand même. Et avec des rebondissements, parce que quelques semaines avant, Lynda.com, qui était le gros acteur, très B2C, très formation, qui a été racheté par LinkedIn.
Par LinkedIn, ouais, tout à fait.
Et c'était un des domaines sur lesquels ils voulaient aller, ce qu'ils offrent en nous rachetant. C'était le côté de descendre en gamme, d'aller peut-être pas jusqu'au B2C, mais de descendre en gamme.
Okay.
Et donc, ça a accéléré aussi l'acquisition. Il y avait encore quelques petits points de discussion technique très important sur le montant, la valorisation, le mécanique du deal, etc. Et des points où on a chopé encore un petit peu quelques semaines avant. Et quand on a vu cette acquisition, tu lis TechCrunch, t'as le truc qui arrive, tu fais « Ah !» Bon, là, on a 3 semaines, normalement, ça devait être 15 jours de signer. Dis, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va foutre en l'air tout le deal?
Ouais. Ou au contraire?
Ou au contraire. Alors, je t'avoue que, de prime abord, tu dis toujours, ça va foutre en l'air le deal. Est-ce que tu veux pas? Parce que t'essaies, faut être au maximum, faut essayer de se dire, ce truc ne va pas se faire. Jusqu'à ce que ça se fasse, ça n'est pas fait et ça ne se fera pas. Parce que sinon, si jamais ça ne se fait pas, très compliqué.
Ouais,
très compliqué
remettre,
de repartir, de réavancer, etc. Et en fait, oui, ça a eu l'effet inverse. Ça a eu l'effet d'accélérer de toutes les discussions qui achoppaient du jour au lendemain, en un claquement de doigts, tout a sauté.
Il n'y avait plus de problème,
il y avait des solutions. Tout ce qu'on demandait a été accepté. C'est très intéressant.
Là aussi, du coup, il y a un timing que tu maîtrises pas, qui est juste dingue.
Totalement. Et on a appris d'autres choses plus tard dans le timing et dans le process qui fait que ça a été bénéfique pour nous. Mais effectivement, c'est difficile de maîtriser, c'est très particulier, et jusqu'à ce que tu arrives justement à cette date et à ce que tu signes. Et là, tu signes et après, tu rentres dans ton Uber, 3h du mat, tu rentres chez toi. Tu fais, bon, alors moi, c'était marrant parce qu'il était 3h du mat, mais j'ai mon frère qui habite en Australie, donc c'est la seule personne que j'ai pu appeler à ce moment-là, parce qu'au moins, il était debout, donc j'ai pu discuter avec lui, c'était assez surréaliste. Et là, tu dis, bon, bah, ok, ça c'est fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Qu'est-ce que ça change? Je sais pas trop, mais t'as un sentiment d'accomplissement. Tu vois, on l'a vendu en 2015, on a lancé en 2007, on a été très lent à la détente, on va dire, très lent au début, mais parce qu'on savait pas exactement ce qu'on faisait, on avait pas d'expérience là-dedans, le marché n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui, les financements n'étaient pas du tout les mêmes. Et je pense pas qu'on aurait espéré une fin aussi belle que ça. Moi, personnellement, en plus, j'étais plutôt sur la sortie parce que je commençais à fatiguer, je voulais faire autre chose.
D'accord.
Donc, cette sortie, cette vente, elle s'est passée au meilleur moment possible à titre perso.
Génial.
Mais c'est vrai que c'est, ouais, t'as ce sentiment d'accomplissement, de dire, OK, c'est beau quand même, c'est beau. Après, c'est la fin de quelque chose, hein, faut être honnête. Hein. Maintenant, je pense que je sais plus qu'est-ce que c'est que de vendre une boîte et, des fois, j'en parle à des copains qui sont dans ces étapes-là parce que c'est vraiment la fin de quelque chose, faut être honnête. Même si c'est potentiellement le début de quelque chose d'autre, mais cette nouvelle chose sera forcément très différente.
Ouais.
Et tu seras moins en contrôle. Ce sera différent, dans tous les cas.
Mais justement, voilà. Là, il y a aussi autre chose, c'est que, à quel moment, là, toi, ça t'arrangeait bien d'avoir, finalement cette sortie parce que, par rapport à ce que tu vivais à ce moment. Mais de ce que je comprends, à aucun moment, vous avez décidé de vous dire, bah, ça serait bien qu'on vende.
Non.
C'est-à-dire que parfois, on peut se dire aussi, mon pipe, c'est pas du tout de vendre, je veux continuer à développer. Et ça tombe dessus. Et puis, tu vois, peut-être c'est... qu'entre vous, entre associés, ça aurait pu créer aussi des...
Oui. Non, t'as raison. Alors, on s'était fait un pacte avec nos investisseurs où on s'était dit, donc pas un pacte écrit, mais un pacte moral, au moment où on a commencé les discussions.
D'accord.
À se dire, c'est marrant, mais c'était basé sur des fourchettes de prix.
D'accord.
C'est de se dire, en dessous de ce montant-là, franchement, les gars, on discute pas.
Ça vaut pas le coup.
Non, mais on discute pas, on n'est pas d'accord, ça vaut pas le coup, c'est pas la peine. Entre cette fourchette-là, OK, on peut discuter. Au-delà de cette fourchette-là, moralement, on est tous d'accord autour de la table, on fera le deal.
OK.
Et donc, effectivement, la term sheet qui a été shootée était au-dessus de ce truc-là. Donc, on était tous d'accord dès le début, même si on a quand même discuté pour l'augmenter.
C'est
parce
normal.
Que sinon, tu dis jamais oui à la première. C'est la base. Mais on avait cette discussion-là. Et après, oui, ça faisait 7 ans.
Tu voulais passer à autre chose aussi.
Et on voyait aussi, c'est quand même ça le point, que le roadshow côté VC était difficile.
Oui, c'est vrai, c'est ce que tu
et
disais.
Ça c'était aussi un point de trigger,
ouais,
de se dire,
c'est clair.
Qu'il y a le roadshow VC est difficile, même il est complètement délirant quand effectivement t'as des gens qui te disent non, mais on croit pas trop au marché, etc., on croit pas trop aux perspectives, et quand on met en parallèle t'as ces discussions-là, tu comprends pas trop. Et donc, tout ça ensemble, toutes ces conditions réunies, bah, c'est improbable au final, parce que comme tu dis, ça a pas été, on n'a pas du tout cherché à revendre, pas du tout, fait qu'en fait, ça n'a pas été une discussion difficile.
Okay.
Alors que ça aurait pu l'être.
Alors, il y a un autre sujet où, du coup, enfin, pour lequel j'étais sensibilisé récemment. J'ai fait un podcast avec Mariam Bini, qui est la cofondatrice de Soledge, qui est une startup qui a fait un super produit dans la hi-fi haut de gamme, sans fil, etc. Je passe les détails. Et eux, quand ils ont fait le CES, leur produit avait eu énormément d'attraction, mais en même temps il y avait beaucoup de grosses boîtes mondiales dans le milieu qui s'intéressaient à eux aussi pour de l'espionnage industriel, et ça lui a été confirmé plus tard, etc. Et donc elle a vraiment vécu ce et je réalisais pas à quel point ça pouvait se faire, tu vois, c'est-à-dire que spontanément, quand t'es une start-up, t'es approché par des gros du secteur, comme vous, Skillsoft, tu dis, ouais, bah c'est génial, mais en même temps, donc t'as tendance à vouloir parler.
Non,
voilà.
faut être honnête, parce que au moment où tu signes cette fameuse lettre d'intention, qui est un peu le fameux non-binding, donc
ouais,
l'acheteur peut ne rien faire à la fin jusqu'au dernier moment. La réalité, c'est que jusque là, enfin à partir de ce moment-là, dans tous les cas, t'as déjà donné beaucoup d'infos.
C'est
à partir du moment où ça s'enclenche, mais tu donnes tout.
Voilà.
T'as toute l'histoire de ta boîte, tu donnes tout ce qui est possible et imaginable.
Donc c'est aussi un risque que tu prends à ce moment où tu sens une confiance, oui, qui se crée aussi avec...
Exactement, t'as une relation qui est importante, et je pense qu'ils ont été très bons là-dedans aussi, et la personne qui a l'idée de l'acquisition, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément et toujours, et d'ailleurs qui est investisseur dans ma dernière boîte, c'est assez intéressant.
Génial.
Cette relation, elle est essentielle, okay, la relation avec les équipes, de se dire, OK, on va vraiment créer quelque chose ensemble, on se comprend, ça t'enlève justement ce côté-là. Après, une boîte comme Skillsoft aussi peut pas faire tout et n'importe quoi, parce que c'est une grosse boîte, elle est hautement régulée sur plusieurs aspects, avant elle était cotée en bourse, enfin. Ils ont quand même des choses à respecter. Ils peuvent pas faire n'importe quoi. Qui probablement pas la même, qui d'ailleurs, de façon un peu bizarre, mais des boîtes un peu plus petites probablement, peuvent probablement se permettre de faire des choses beaucoup, beaucoup plus sales. Mais c'était pas du tout leur mindset. Et on s'est posé la question au début. Ça, c'est clair. À un moment, est-ce qu'on divulgue ça? Est-ce qu'on dit ça? Est-ce qu'on dit pas ça? Qu'est-ce qu'on fait? Et puis après, les choses se font naturellement. On n'a jamais senti ça.
Okay.
Et la réalité, c'est qu'à la fin, nous, on n'avait pas, on est, on a pas de brevet, tu vois, on a pas de secret industriel. Nos secrets, c'est notre savoir-faire.
Ouais.
Et le savoir-faire, bah, si quelqu'un t'explique comment il fait, c'est pas pour ça qu'il va savoir faire.
Ouais, c'est vrai.
Donc aussi, on était plutôt,
serein de ce point de vue-là.
Ouais, sur ce sujet-là, je pense.
Ok. Et donc, après cette session, toi, tu rejoins Skillsoft. Tu restes.
Ouais. Je suis resté 18 mois.
Ouais, t'es resté 18 mois. Et du coup, là, t'avais justement, tout à l'heure, tu disais que leur outil était un peu vieillissant, etc. Mmh. Et ta mission principale, c'était un peu de refondre certains de leurs.
Alors, la mission a changé en cours de route. La mission a changé entre le jour où on a signé et 4 mois plus tard.
D'accord.
C'est tellement particulier. En fait, le jour où on a signé, voilà, ce fameux jour où j'étais dans mon Uber à 3 heures du matin, le lendemain, je me suis vraiment posé la question. Est-ce que je pars? Du jour au lendemain, je m'en fiche, je reste pas. J'ai vendu, je pars.
Okay. Alors que dans les clauses, il y avait quand même le fait que tu restes, ou bien ça c'était.
Alors justement, ça c'est les clauses qu'on a négociées et qui sont toutes tombées au bon moment, c'est que en fait, j'avais pas d'earn-out, donc en fait, je pouvais partir du jour au lendemain, ce qui est assez improbable. C'est un deal qui s'est fait en cash.
D'accord.
100% en cash, ouais. 100% immédiat, ce qui prouve qu'ils voulaient absolument faire le deal et qu'ils n'étaient pas sûrs de le faire jusqu'à la fin. Ils nous l'ont confirmé après. Et par contre, on avait un incentive à rester, bien évidemment. Donc, plus vous restez, tu vois, on avait un package additionnel en restant, mais clairement pas un earn-out sur la vente de la boîte. Et donc, je me suis sérieusement posé cette question. C'est OK, ça fait 7 ans. OK, j'ai fait le tour de la question. Bah écoute, pourquoi pas juste aller partir et puis faire autre chose. Et puis en y réfléchissant, hein, déjà je savais pas ce que j'allais faire. Tout bêtement. En fait, j'ai pas vraiment d'idée. Et puis en fait, j'ai jamais travaillé pour qui que ce soit premièrement. Et en fait, je sais pas ce que c'est aussi une grosse boîte. Enfin, j'ai jamais. En fait, j'ai toujours été entrepreneur. J'ai toujours géré mon précaré, mon domaine. C'est toujours été ma boîte. Donc, en fait, je sais pas ce que c'est. Donc, peut-être que c'est l'occasion, en fait, de découvrir autre chose et de voir qu'est-ce que j'en pense. Mmh. Puis c'est une occasion en or parce qu'en fait, ça me plaît pas, je pars. Puis voilà.
Ouais.
En fait, au final, ça me coûte rien. Et en plus, tu fais ça dans une situation globalement assez confortable. Donc, OK, go, restons. Et donc, le deal à la base, c'était effectivement de créer un nouveau produit plutôt sur du B2C SMB, on va dire. Donc, très loin de l'enterprise qui était le marché de prédilection de Skillsoft. Et les choses patinaient. Donc, il y avait un certain nombre d'investissements qui devaient se faire.
D'accord.
Beaucoup d'investissements, on devait recruter pas mal de monde. Il y avait pas mal d'argent sur la table, en plus du deal, pour faire grossir la boîte. Et ça avançait un peu, mais ça patinait. Genre, OK, tu te dis, OK, j'arrive dans une grosse boîte, dans un grand groupe. OK, c'est peut-être normal que les choses aillent un petit peu moins vite.
Ouais.
Mais au bout d'un moment, enfin, tu te dis,
il faut que
franchement,
ça
si ça continue à cette vitesse-là, moi, je bosse un jour par semaine et ça suffit. Ça sert à rien.
D'accord.
Mais c'est pas normal. En fait, et puis t'as des gens, des interlocuteurs, en fait, qui savent pas non plus pourquoi. Donc c'est très bizarre. En fait, t'es dans une situation, en fait, personne ne sait pourquoi ça avance pas. Et donc ça c'est pas normal. Et donc 3-4 mois plus tard, nous, mes associés, on se regarde, on se dit, si ça avance comme ça, franchement, ça sert à rien. Enfin, nous, partons quoi. Enfin, ça sert à rien. En fait, ce que vous voulez de la boîte dans ce cas-là, et go. Enfin, nous, on sert à rien. Et à ce moment-là, le fonds d'investissement à qui appartient Skillsoft.
Mm-hmm.
Donc à l'époque, c'était Charterhouse, donc un fonds de private equity qui gère, je sais pas, centaines de milliards de dollars.
D'accord.
Les boss du fonds qui ont fait ce deal, qui ont racheté Skillsoft, viennent nous voir. Viennent à Paris. C'est un fonds londonien. Viennent à Paris. Et nous, on allait leur dire, écoutez les gars, c'est super, mais bon, on va partir quoi. Je veux dire, ça avance pas, on n'a pas de réponse, soit. Et je revois tellement cette scène. On s'assoit dans la salle de réunion, il devait être 2 ou 3, avant même qu'il s'assoie, mais vraiment avant même qu'il s'assoie, direct fait, on est désolé, ça se passe pas du tout comme il faudra.
Ah.
Oh, ok, bon, bah, intéressant, bon,
okay.
On écoute, et là on apprend que effectivement ça se passe pas du tout comme ils veulent eux, et en fait, Skillsoft qu'ils ont racheté, je sais pas, genre, je dirais 1 an et demi avant, ça va pas comme ils veulent. Les chiffres vont pas comme ils veulent. On apprend que c'est eux, en fait, qui ont dirigé notre achat.
D'accord.
C'est eux qui voulaient adjoindre Vodéclic à Skillsoft. Et qu'il va y avoir beaucoup de changements. Et s'il vous plaît, leur mot, c'était s'il vous plaît, restez, on a besoin de vous, vous êtes le futur de la boîte. Ok, bon, franchement, on se connaît pas. Enfin, nous, on vient d'arriver, on connaît pas grand chose au groupe non plus, mais ok, soit. Il va y avoir du changement. Alors effectivement, il y a eu un peu de changement parce que quelques semaines plus tard, ils nous envoient des advisors qu'ils ont mis dans la boîte.
D'accord.
Et en fait, qui nous explique, cet après-midi, je serai nommé le CEO de la boîte. Ah d'accord, ok, bon, super. Mm-hmm. Donc vous êtes au courant avant tout le monde. Ok, bon, très bizarre, parce qu'effectivement, t'es la boîte qui a été rachetée, t'es au courant avant les 3000 autres employés. Mm-hmm. Et va y avoir beaucoup de changements, et je compte sur vous, et j'ai besoin de vous pour insuffler le changement. Et donc, alors, ça se passe sur des semaines et des mois, mais basiquement, tous les six levels de la boîte sont fait virer, de Skillsoft, tous, de A à Z, qui étaient les fondateurs historiques. Donc, très violent. Ils ont profité pour aussi réduire le staff significativement au niveau mondial. Okay. Se repositionner sur OK, c'est quoi la suite en fait, le produit il est pas bon, il faut repartir de zéro, on a racheté cette boîte Vodéclic, ils ont un savoir-faire, ils sont bons là-dessus. Toi Guillaume sur la tech, bah écoute, j'ai envie que tu t'occupes de la tech et j'ai envie que tu me fasses une due diligence sur toute la tech du groupe Skillsoft qu'on a. Et tu me dis ce qu'il faut faire. Ok, d'accord. je vais faire une due diligence. Je vais parler aux gens qu'il faut. Parce que typiquement, effectivement, votre produit il est pas terrible. Je pense qu'on est à peu près d'accord. Mais a priori, ils vont quand même plutôt pas mal. Et puis il est compliqué. Donc là, moi, j'ai fait un roadshow interne. Je suis allé voir. Alors, c'est une boîte qui s'est rachetée par plein d'acquisitions. Ouais. Je suis allé voir les équipes aux US. Il y en avait aux quatre coins des US. Je suis allé toutes les voir. Je suis allé comprendre qu'est-ce qu'ils faisaient. C'était quoi leur responsabilité? C'était quoi leur produit? Pourquoi ça patinait? Effectivement, pourquoi dès qu'il fallait changer une couleur quelque part, ça coûtait $1 million? Genre, des trucs un peu aberrants. Okay. Et donc, faire un peu cet assessment-là et donner, tu vois, la due diligence, en fait. Ouais, qu'est-ce que ça donne? Donc, tu vois, c'est moi qui fais une due diligence sur le groupe qui a fait une due diligence 4 mois avant.
C'est clair. Ça devait
très
être
bizarre.
Un peu...
Et donc, ok, on fait ça et on donne une. Enfin, je donne avec mon associé qui s'occupait plutôt de la partie produit, on donne une recommandation de deux options, deux pistes possibles, de repartir de zéro, from scratch, on refait un nouveau produit. Mm-hmm. Mais bon, on dit que c'est quand même très très compliqué, ça va prendre du temps, c'est difficile. Ce qui sauf, c'est un gros produit avec des très gros clients, l'armée américaine, l'IRS, enfin genre des clients gigantesques avec des contraintes inimaginables.
Ouais, la refonte totale, tu imagines pas tout de suite. Quoi.
Ouais, et puis ce qui sauf, c'était tout sauf un outil SaaS. Enfin, c'était un produit SaaS, mais qui était customisé pour chaque client. Donc en fait, c'était le pire possible entre l'on-premise et le SaaS. Ils ont fait
le pire des deux mondes,
parce qu'en fait, c'est une boîte qui était travaillée par le sales depuis toujours. D'accord. Et le produit à la tech a jamais vraiment eu son mot à dire, à part dire oui, il faut le faire. Okay. Et donc du coup, à la fin, ça a créé une sorte de Frankenstein, plus les acquisitions qui sont pluguées dedans. Ouais. Et donc sinon, une autre voie, un petit peu plus cheval de Troie, on recrée un produit dans le produit, on le fait étendre et tout. Mais ce nouveau CEO était globalement assez pressé, a priori. Et donc, il a voulu choisir l'option on refait tout from scratch. On refait tout from scratch, ok, bah ça va prendre quand même un peu de temps et ça va prendre un peu de moyens. Et donc là, moi j'étais rattaché, il n'y avait pas de CTO, c'est très intéressant, hein, un groupe de cette taille-là, technologique, qui n'avait pas de CTO, donc ils avaient juste un VP Engineering.
D'accord.
Moi j'étais VP Engineering, mais de l'entité française, et à ce moment-là, en fait, je deviens VP Engineering du groupe et le VP Engineering du groupe me reporte. Alors, truc inversé. Je pense que ça va pas le faire. Bon, d'ailleurs, ça l'a pas fait. Il est parti tout de suite. Il y avait rien contre moi, mais bien évidemment, il n'allait pas accepter ça. C'était une manière de lui dire au revoir.
De l'inviter à partir.
Un peu pas très élégante.
Voilà, tu décris tous les trucs entre guillemets qu'on n'aime pas de ces hedge funds ou de ces tu décris un peu les pratiques
totalement. C'est des pratiques où en fait j'achète sur un fichier Excel, ça fait 20% de croissance, oh là là, ça fait 12% de croissance, là il y a plus rien qui vend, détruit tout. Parce qu'en plus derrière c'est de la dette côté, c'est effectivement le monde de la finance internationale, pas très reluisant.
Okay.
Surtout quand toi t'aimes faire des produits, des business, mélanger de la tech dans tout ça, là tu arrives dans des discussions qui sont vraiment planétaires. Des fois t'as envie de leur dire mais juste aller voir les gens, juste discuter, si vous voulez savoir réellement ce qui se passe, discuter. Mmh. Arrêtez de regarder votre fichier Excel, et ça clairement tu vois qu'ils sont perdus. Donc c'est là où on a essayé d'être un peu utile, et on a recréé, alors j'ai recréé des équipes. J'ai créé des équipes en Inde, à Paris avec mes équipes historiques, au Canada, aux États-Unis, pour recréer un nouveau produit, donc toute une nouvelle architecture, de nouvelles contraintes. Donc on a lancé un projet gigantesque avec des moyens importants. Ouais, j'avais un budget de plusieurs millions de dollars, c'était une dizaine de millions de dollars. Et là, c'est là où tu arrives dans le côté un peu frustrant de beaucoup de politique en interne. Alors moi, je reportais directement au CEO. Donc en fait, pendant un temps, j'avais tous les passe-droits possibles, trop, enfin, c'est délirant. Mais le problème, c'est qu'il y avait quatre ou cinq personnes dans cette boîte qui parlaient au CEO.
D'accord.
Les autres voulaient pas lui parler, ils avaient peur de se faire virer. Moi, j'en avais rien à faire de me faire virer. Genre, si vous voulez me virer, virez-moi. C'est peu importe. Moi, je suis là parce que je peux être utile. Si je suis pas utile, franchement, pas de problème. Ouais. Passons notre chemin. Et donc, on recrée tout ça, mais dans des conditions effectivement compliquées, parce qu'une partie de la boîte est genre en choc, genre tous les fondateurs historiques, enfin genre tellement de personnes qui sont parties, donc il y a un choc forcément important. Toi, t'essaies de redonner une dynamique, de recréer, et bien évidemment, tu peux pas le faire avec tout le monde, donc on a dû recruter quelques personnes. Il y a des gens, on leur dit, vous bossez sur nouveaux produits, et vous bossez sur legacy qui va mourir. Donc en fait, tu leur dis un peu, espère qu'il y aura un transfert à un moment ou à un autre pour vous, mais votre poste, il est quand même compliqué. Et puis on a des équipes aussi qui avaient des façons de faire, des savoir-faire qui étaient un peu aux antipodes de nous, c'est très old school. Donc aussi se poser la question, qui est en capacité de s'adapter assez vite à ces nouvelles façons de faire. Donc ça n'a pas été simple. J'ai eu la chance de trouver quelqu'un dans le groupe qui était vraiment top, qui est devenu mon bras droit, qui était américain, qui était vraiment génial. On s'est super bien entendu. Donc on a créé beaucoup de choses ensemble. Moi, j'avais besoin d'avoir quelqu'un comme ça, enfin qui connaissait une partie des équipes, qui connaissait aussi comme la boîte, mais qui n'était pas trop sclérosé, tu vois, dans la façon de faire. Et donc on a avancé, mais effectivement des problèmes de politique, parce que t'as un fonds de private equity, donc qui regarde pas le long terme, pour être honnête, donc qui regarde le court terme. Le problème, c'est que quand tu fais de la tech et tu fais du produit, tu peux pas juste regarder le court terme. Il y a un moment, faut regarder le long terme aussi. Et là, tu rentres dans des discussions absolument improbable, ça veut rien dire, et en fait t'as des gens qui parlent mais ils savent pas de quoi ils parlent, et tout ça à la fin c'est pas très efficace. Tout est lent, tu dépenses énormément d'argent pour faire pour des fois accoucher d'une souris.
Tu peux dire que spontanément toi tu sors d'une période très frugale presque, j'ai envie de dire,
complètement,
et là du coup t'as les moyens, tu peux, donc spontanément moi quand je vois ça je me dis ça peut être génial, tu restes un peu dans de l'intrapreneuriat, mais en fait pas du tout. Là ce que tu me décris c'est que c'est moyen quand même.
Effectivement t'as des moyens gigantesques à ta disposition, mais déjà tu n'utilises pas ces moyens exactement comme tu voudrais, et du coup on t'oblige des fois à les utiliser de façon totalement stupide, on dit ah non mais là il faut que tu recrutes ces personnes-là. Pourquoi je vais recruter ces personnes-là? Elles sont trois fois moins bonnes, elles coûtent trois fois plus cher. Ça n'a pas de sens. Politiquement, il faut que ce soit ça.
D'accord.
Ok, très bien. Donc, t'as des choses comme ça. Tu peux comprendre qu'il y a un peu de politique, c'est normal, c'est un gros groupe, il y a des gros moyens, etc. Donc, tu fais le dos rond sur certains sujets, puis sur d'autres sujets, tu le fais pas. Après, t'as aussi un mindset d'une boîte assez ancienne, et aussi un mindset très américain que j'ai découvert, le mindset très legal. Donc dès qu'il faut faire quelque chose, moi ce que je disais c'est dès qu'il faut pisser à droite ou à gauche, faut demander aux lawyers avocats. En fait. Donc au bout d'un moment c'est assez fatigant. Tu vois quand il faut que tu te battes pour pouvoir faire intégrer Slack, quand il faut que tu te battes pour pouvoir utiliser Stripe, quand il faut que tu te battes pendant des semaines et des semaines dans des calls improbables pour ça, c'est horrible. C'est pareil quand tu fais des calls de 30 minutes avec 18 personnes. Ça sert à rien, franchement.
Ouais.
On s'est tous dit bonjour,
c'est tout.
Ah, mais c'était la spécialité. C'était la spécialité, c'est l'école de 30 minutes avec une pléthore de personnes. Donc, au final, ça sert à rien. Mais au bout d'un moment, j'ai dit, s'il y a plus de 6 personnes, je viens pas, de toute façon. Parce que ça sert à rien. Mais tu vois, c'est difficile, toi. Il y a un choc de culture. Pas que de Europe, US, etc. Ouais. Et d'ailleurs, je pense, c'est pas le plus important. C'est plutôt le choc de la grosse boîte. Des vieilles façons de faire, et en plus qui s'est pris un énorme scoud dans la tête, faut être honnête, les équipes forcément elles avaient peur, c'est normal, et en à côté toi t'essaies d'aller très vite, t'as beaucoup d'argent. Moi j'étais le plus jeune VP de toute la boîte, tous mes collègues ils avaient 20 ans de plus que moi, donc forcément quand tu leur dis mais en fait ce que tu fais là c'est alors moi je suis français donc je vais dire en fait c'est de la merde, je sais j'ai pas le droit de te le dire parce que t'es américain et du coup tu détestes que je dise ça, mais j'ai du mal à prendre des pincettes, donc je vais te dire ce que j'en pense. Par contre je pense qu'on peut faire mieux, mais ça c'est un discours difficile à tenir, et d'autant plus quand
t'es le plus jeune.
Mais toi, qu'est-ce que tu fais toi là? Tu viens d'arriver, il y a 6 mois, c'est ça exactement. Ça c'est dur, mais au final ça a été plutôt facile de se faire respecter, je pense. Ça n'a pas été vraiment un problème. Le fait d'avoir ce bras droit aussi américain m'a beaucoup aidé. Je pense pour arriver à faire passer le message. Je me souviens de réunion, on me disait non mais ça Guillaume, ça tu peux pas dire.
je le dirai pas la prochaine fois. Bon, faut pas que je dise ce que je pense exactement. Ouais,
mais vous avez fait un binôme en fait.
C'est très drôle. Ouais, bah, lui, il était indien d'origine.
D'accord.
Mais il vit aux US depuis 20 ans. Donc, il était top et je suis toujours en contact avec lui. J'adore. Il est parti du groupe depuis. Mais voilà, on a construit tout ça et tu vois, au bout d'un an, ça faisait 18 mois, donc ça faisait un an qu'on avait lancé ce projet-là. Il était on track. Ça avançait, ça développait. Il était pas encore complètement réalisé.
Okay.
Mais à ce moment-là, moi, je faisais plus rien à part que de la politique et je voyais les trucs politiques arriver et sincèrement, les équipes étaient construites, ça développait. Oh, ça allait pas assez vite, ça c'est une certitude et ça dépensait trop d'argent pour faire ça. Mais bon, ça, je pense qu'il faut l'accepter dans un groupe de cette taille-là. Je me suis dit, je vois pas trop qu'est-ce que je continue à faire ici. Ça sert pas à grand-chose. En plus, ils ont commencé à s'engager dans une voie. Il faut qu'on embauche des gens qui ont un beau CV pour pouvoir revendre le groupe.
Ah, d'accord.
Donc, on a embauché un CTO qui vient d'IBM. Mais bon, il vient d'IBM. Mais bon, il était pas le top mec de chez IBM non plus. C'était un peu tout comme ça, tu vois. Il fallait des CV.
Habiller la mariée, quoi.
Exactement. Ils ont essayé de faire un bel habillage. C'est exactement ça. Et donc, aussi de plus en plus de top execs qui partaient encore, de nouveau. Toi, toutes les semaines, t'avais, il se reconcentre sur sa famille, machin, ok, d'accord, c'est bon. Je connais cet email, okay. J'en ai un par semaine. C'est presque comique à la fin.
Ça devait être fou quand même.
Non, mais franchement, j'ai des anecdotes que j'oserais pas dire là, mais genre, tu peux faire un bouquin, quoi, c'est n'importe quoi. Et donc, ouais, tu vois la boîte qui a perdu son âme de toute façon, ouais. et qui est dirigée pour des mauvaises raisons. Toi. Non, clairement, j'ai pas signé pour ça et que, comme tu disais, côté de finance internationale avec tu détruis en fait au final en grosse partie tu détruis de la valeur parce qu'en fait tu veux une sortie rapide et tu veux que du court terme et tu t'en fiches du long terme ça c'est pas ma façon de voir les choses donc c'est pour ça que je suis parti ils ont tenté de me garder d'une façon assez marrante mais bosser un jour par semaine où je voulais au même salaire etc genre de propositions indécentes genre ils étaient sûrs de me faire une fleur absolue je leur ai dit non
oui parce qu'en plus à ce moment-là bon on a pas parlé de chiffres mais t'as pas besoin d'argent
du cash non mais voilà. Clairement j'ai pas besoin du cash et ça ils comprennent pas aussi ça c'est mindset d'américain
d'accord
et ils ont essayé de retenir une grosse partie de mon équipe comme ça en France en disant non bon, leur man incentive ils prennent x4 plus à la fin de l'année j'en ai mais en fait ces gens-là ils sont venus dans une startup ils ont rejoint une startup pour créer quelque chose l'argent enfin ils ont tous un boulot ils ont juste à se baisser pour avoir un boulot. Donc en fait, ils sont pas là pour l'argent. 95% sont pas là pour l'argent parce qu'ils vont être bien payés ailleurs aussi. Ils sont là pour le projet. Et en fait, la façon que vous avez de les manager va les faire partir. En fait, ils ont essayé de me manager de la même façon au final. Et résultat, effectivement, quand je lui ai dit non, j'ai vu la mine déconfite du CTO.
Comment c'est possible?
Comment il peut me dire non? Genre, c'est pas possible.
Ouais.
Bah, en fait, si, c'est possible parce que je suis pas là pour l'argent. J'ai jamais monté cette boîte pour l'argent non plus. Donc ça, ouais, ça pour le coup, effectivement, petit choc culturel quand même. Et du coup, écoute, la boîte, moi, je suis parti. La boîte a continué. Enfin, ils ont continué à développer le projet, qui est d'ailleurs une partie du produit qui est vendu aujourd'hui. Je suis sûr qu'il y a une ancienne partie du produit, mais bon, tout ça se finit pas si bien que ça. La boîte a été sous Chapter 11 aux US en juin dernier, c'est-à-dire sous faillite. Elle vient d'être rachetée par un fonds. Ils ont fait un SPAC. C'est le nouveau truc à la mode à Wall Street, là. C'est en gros, t'as des gros financiers qui lèvent 2 milliards de dollars et disent avec cet argent, je vais racheter une autre boîte. Et cette boîte-là, ça va devenir la boîte cotée. En fait, c'est une façon de coter une boîte sans passer par le processus de coter la boîte, qui est long et compliqué. Mais bon, voilà, c'est une boîte qui va se passer de financier en financier pour 3 francs 6 sous, pour être très honnête. Donc en fait, on a détruit quelques milliards de dollars de valeur dans tout ça, plus quelques centaines, voire milliers d'emplois probablement au passage, alors que c'est une boîte qui marchait globalement bien, qui avait un bon business. Bien sûr, il y a des choses qui n'allaient pas et qu'il fallait faire évoluer, mais probablement pas en faisant sauter une mine au milieu de tout ça, quoi.
Ouais. Donc là, tu décides de partir, tu décides de t'arrêter. Et est-ce que tu prends un peu le temps? Parce que là, j'ai l'impression que tu prends pas le temps, comme ça, quand on parle, quand on fait l'histoire. En raccourci, que finalement tu viens de vendre une boîte, tu viens de bosser 7 ans, tu fais une plutôt belle sortie a priori, commun des mortels se dit bah ok je prends aussi un peu le temps.
Après j'ai pris le temps là du coup. À ce moment-là, une fois que je suis parti, devait être 2015, mi-2016, donc fin 2016. Je suis parti fin 2016, en novembre 2016. Et là, effectivement, en fait, pendant les 2-3 derniers mois où j'étais là, tu vois, j'essaie vraiment de réfléchir, ok, je fais quoi après? J'essaie même de me caler du temps, parce qu'au final, le matin, je n'avais pas grand-chose à faire en France, parce que je n'avais pas de call. et en fait, j'arrivais pas. J'arrivais juste pas à avoir d'idées. Enfin, tu vois, genre, j'arrivais pas. Et c'est pour ça que je me suis dit vraiment, non, ok, faut vraiment partir. Je fais rien après, c'est pas grave. Mais pour
Je fais une
justement trouver de nouvelles idées, j'ai besoin d'une vraie coupure, et je pourrais pas trouver en étant à moitié là, à moitié pas là, tu vois. Donc là, je quitte complètement. Je pars deux mois et demi en Australie chez mon frère. C'est l'été, c'est cool.
Super.
Je fais rien, c'est le kiff absolu. Donc ça c'était top. Puis après, je reviens ici et en fait, j'ai commencé à avoir pas mal d'entrepreneurs, graviter autour de certains fonds, de certaines boîtes, faire un peu de conseils. En fait, j'ai du temps. Moi, j'adore ce que je fais, j'adore mon métier, donc je veux pas m'arrêter et rester juste sur une plage à rien faire, même si c'est agréable et je le referai encore un petit peu après. Mais justement, rencontrer plein de personnes. En fait, j'ai commencé à rencontrer énormément de personnes, pas par volonté de networker, tu vois. Juste, mais en fait, j'ai du temps. On propose un café, on propose de parler ici, je rencontre quelqu'un d'autre, voilà, juste comme ça.
Ouais.
T'as du temps, donc tu en profites, t'essaies de pouvoir être utile, et je trouve ça assez intéressant. C'est comme ça que j'ai commencé à investir dans quelques boîtes, de façon pas totalement prévue. Enfin, tu vois, j'étais sûr que c'était quelque chose que je ferais probablement, mais grâce à ces rencontres, je vois aussi les limites de faire ça. Tu vois, je me suis vraiment posé la question, est-ce que ça pourrait être mon métier? Est-ce que je pourrais, tu vois, devenir VC, par exemple, ou dans ce domaine-là au global? Mais en fait, je suis quand même un ingé, je suis encore jeune, j'ai encore des idées, j'aimerais encore faire. Et en fait, je vois les limites de donner des conseils. À un moment, t'as envie de dire aux gens, pousse-toi, laisse-moi faire. tu vois, mais ça, c'est pas parce qu'ils font mal, hein, c'est juste parce que t'as envie de faire plus. T'as envie de faire plus, parce que c'est comme ça qu'on est câblé. Et ça, je vois clairement que c'est pas possible, c'est la limite. Au passage, je refais un petit stop, je repars un mois et demi à Bali avec un copain. C'était l'occasion aussi d'en reprofiter encore un petit peu. Ça, c'est cool. Mais, fin d'été et tout, je me pose des questions et je me dis, ok, j'aimerais bien remonter une boîte, je rencontre des gens, je me dis, tiens, je vais peut-être m'associer avec eux, j'essaye, ça marche pas vraiment, pas bon fit, ok, pas grave, mais ça me donne des idées et je me dis, ok, attends, je vais pas monter une boîte tout seul déjà, premièrement, y a des domaines qui m'intéressent, des domaines qui m'intéressent pas, des types de boîtes qui m'intéressent, des types de boîtes qui m'intéressent pas, je fais une sorte de matrice, type de marché, type de business, type machin, etc. Je dis voilà, ça c'est
un peu près
ma matrice. Ouais, exactement. Ouais, okay. J'ai besoin d'un petit peu de structure. Même si à la fin tout ça, ça part complètement yolo, mais c'est un bon moyen de démarrer. J'ouvre un Slack avec trois potes et je me dis tiens, ce sera peut-être des gens avec qui j'aimerais bien faire ça. Si ça les tente. Donc joue ce Slack pour donner des idées, changer, voir qui prend la balle au bon et tout. Et mon associé d'aujourd'hui qui a pris cette balle au bon et qui était mon premier employé en 2008, qui est devenu un très bon pote depuis, qui a fait plein d'autres choses après. Depuis longtemps, il me disait, mais si tu remontes une boîte, faut qu'on fasse ensemble, etc. Et donc, il a pris la balle au bon. On a commencé à brainstormer sur des idées et puis on s'est lancé. On s'est lancé à deux et c'est devenu Bearer. Le nom original, c'était Apizy et qui est devenu Bearer, qu'on a lancé officiellement, début 2018, on va dire, la boîte existe depuis début 2018, son vrai premier démarrage, on va dire, on a commencé à faire des choses concrètement, c'est début avril 2018, et c'est devenu Bearer. Donc j'ai pris 9-10 mois, on va dire, entre les deux. Des fois je me dis mais pourquoi j'ai pas pris plus de temps, forcément.
Là, c'est comment t'es câblé du coup.
Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et puis au final d'avoir plein de temps et tout, mais si t'es le seul à avoir plein de temps, ça sert à rien.
Ouais, c'est vrai. Aussi il faut partager aussi.
Ouais, c'est ça. Donc voilà comment j'en suis là maintenant, avec quand même un petit peu de pause et avec
super. Donc là tu lances Bearer, et du coup Bearer, on est dans que j'ai commencé à introduire rapidement tout à l'heure, mais entre temps on a parlé de pas mal de choses. Donc c'est vraiment le monitoring d'API.
C'est à la base, on part d'un constat à la base. On utilise de plus en plus d'API. Pour s'intégrer, c'est devenu essentiel, et en fait c'est un peu le succès du SaaS, fait que tu utilises tellement d'outils qu'en fait ces outils ont besoin de s'intégrer ensemble. Sinon ça devient un enfer, ce qui est un peu l'une des réalités du, c'est un peu la résultante de ce succès là et donc on a toutes ces API là. L'API en tant que telle, c'est pas une nouveauté technologique, loin de là, mais on commence à réellement s'en servir pour faire des intégrations qui ont une vraie valeur business. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'API commence à vraiment être compris par des équipes plutôt produits ou business, et pris, et en fait c'est eux qui sont demandeurs d'intégration. C'est pas une techno pour des techs, en fait. Et d'ailleurs, en tant que développeur, les API c'est bien, mais aussi tu connais un peu le revers de la médaille. C'est, je dépends sur quelqu'un d'autre, le truc qui change, le truc qui va casser, c'est un peu chiant quand même. Donc t'as une sorte de priori.
Mon dépend des autres aussi quelque part. Il y a une interdépendance qui se crée du coup.
Et cette interdépendance. Et quand t'es développeur, t'aimes pas trop les interdépendances, parce que tu sais très bien que c'est là où ça va mal se passer à un moment ou un autre. Ça finit toujours par mal se passer. Mais c'est un vrai intérêt business, un vrai intérêt produit. Et c'est demandé par les clients, c'est demandé par les utilisateurs aujourd'hui. C'est bien essentiel. D'ailleurs, j'inviterais, tu regardes beaucoup de produits SaaS. Tu regardes les pricing. Souvent, les intégrations, c'est ce qui fait que le pricing augmente. C'est le plan d'après qui inclut les intégrations. C'est souvent ça. Alors, ça va l'être de moins en moins parce que, encore une fois, ça devient de plus en plus un prérequis obligatoire.
Tout à fait.
Mais voilà, c'est tu vois un peu.
Il y a de la valeur autour de ça, clairement.
Énormément de valeur. Et nous, on se fait ce constat-là que c'est top, mais nous, on est des techs et en fait, c'est un peu painful. Mais on comprend la valeur que ça. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer de regarder concrètement c'est quoi les challenges qu'il y a autour et essayer de régler une partie de ces challenges technologiques liés à l'usage d'API pour leur donner leur plein potentiel business. C'est ça l'origine de Bear, en fait. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait et comment ? Ça, c'est plus compliqué. Soyons honnêtes. Ça, c'est beaucoup plus compliqué.
Mais t'as fait le constat du problème et ensuite, comment j'y réponds?
C'est ça. On a fait le constat du problème, constat du marché, la chance d'avoir déjà fait une boîte, d'avoir un peu d'expérience, etc. Ça fait qu'on a pu lever de l'argent assez facilement. On a un bon CV, etc. C'est une période très propice à monter des boîtes.
Parce que là, du coup, vous partez directement sur une levée de fonds.
Ouais, je voulais pas bootstrapper cette boîte.
D'accord.
Peut-être une erreur, d'ailleurs, je voulais pas et je pouvais pas parce que mon associé, lui, pouvait pas la bootstrapper.
OK.
Lui, il avait pas eu la chance de pouvoir faire une exit comme ça. Donc, c'était difficile de la bootstrapper de ce point de vue-là. Donc, on a levé de l'argent. On a levé 1 million, directement. Donc, deux fois plus que toute l'histoire de Vodéclic réunis sur Day One, et prouve la différence de marché. Ouais.
Mais là, tu as le track record, t'as fait l'exit, t'es...
T'as le track record, clairement, qui aide voilà. beaucoup, t'as le marché qui aide beaucoup, t'as,
et puis la
t'as
période la, aussi t'as qui la, change la thématique. Un peu.
Ouais, il y a tout. Ouais. Clairement, je pense que tu mélanges tout et t'as les raisons. Et donc, on se lance et on essaie de trouver les bonnes clés, les bonnes solutions. On a démarré sur quelque chose de très développeur tool, on va dire.
D'accord.
Pour t'aider à créer des intégrations, à les rendre réutilisables, etc. Mais on n'a jamais trouvé la solution magique. Sans demander aux développeurs de faire différemment, et ça c'est très difficile de demander aux développeurs de faire différemment. Et au final, c'est aussi de se dire que le pain, oui, il y a un pain technologique, il y a un pain côté développeur, mais est-ce qu'au final, c'est ceux qui ont le plus gros problème sur l'utilisation de ces API? Et en fait, c'est pas forcément en réalité, c'est peut-être un peu fourvoyé sur le constat au début, ou en tout cas on l'a pas vu en entier, c'est que il y a un ensemble d'acteurs dans le life cycle d'une API qui sont impliqués, parce qu'en fait une API c'est un partnership ou alors tu la payes, genre Stripe tu la payes, et donc il y a des problématiques de sécurité, il y a des problématiques de contrat, il y a des problématiques de monitoring, il y a pas mal d'autres problématiques en fait autour, juste que la partie, ok, il faut l'intégrer. Et en plus, il faut l'intégrer, c'est une problématique one time. Une fois qu'elle est intégrée, elle est intégrée. Une fois que tu l'as intégrée, t'as pas envie de le refaire. Parce que ce jeu était painful une fois, donc on va pas le refaire.
Alors, du coup, je vais juste rebondir sur l'exemple que tu donnais sur Stripe.
Ouais.
Parce qu'effectivement, là, l'API, elle te permet d'envoyer tes données à Stripe pour que Stripe fasse le paiement ou encaisse ou exécute l'acte d'achat pour toi. Et donc, c'est le moyen de communiquer avec Stripe les produits que tu as vendus, le prix de vente, la quantité, etc. pour que Stripe génère, pas la facture, il pourrait, mais pas que.
Encaisse,
tout simplement, exactement. Je voulais juste remettre un petit peu
le contexte
de l'API.
L'API, en fait, il faut vraiment voir l'API. L'API, ça doit pas être une finalité, en fait.
Ouais.
L'API, c'est un moyen, et aujourd'hui, c'est clairement le meilleur moyen de construire des partnerships.
Ouais.
C'est le meilleur moyen de développer plus vite un produit, parce qu'on peut utiliser des briques. En fait, c'est des building blocks. En fait, c'est des Lego, les Lego d'autres. Donc, moi, je vais pas redévelopper ma solution de paiement. Il y a Stripe qui en fait une. Puis, je vais pas redévelopper une solution d'envoi de SMS. Il y a Twilio qui en fait une. Je vais pas redévelopper une solution d'email. Il y a SendGrid, qui appartient à Twilio maintenant. Mais c'est là où tu arrives aussi dans un contexte où il y a de plus en plus ce qu'on appelle des API first products.
Ouais.
Donc, des boîtes qui se montrent, qui en fait sont des produits qui ne se consomment que par API. Et en fait, c'est des pièces de Lego. Et c'est ce dont on dit, tu étais au tout début sur ces fameux levels d'abstraction. Mm-hmm. C'est un nouveau level d'abstraction en fait quand on développe du software, c'est qu'il y a des choses qu'on a plus besoin de développer parce qu'il y en a d'autres qui nous donnent cette brique presque toute faite qu'on peut utiliser sous forme d'API.
Donc là, du coup, vous faites le constat avec du recul que c'est pas tant les techs qui ont le vrai problème. Et du coup, qui est-ce qui l'a?
Alors en fait, les techs sont ont une partie du problème.
D'accord.
Mais effectivement, pas forcément celui qui a le plus de valeur. Et c'est là où on va revenir entre faire un bon produit et une bonne tech, ça fait pas un bon business.
D'accord.
Et là, typiquement, c'est par exemple le cas. C'est assez difficile de faire du business sur les développeurs et les boîtes qui réussissent très très bien. Hein. GitHub est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Mais c'est un business qui est difficile parce qu'il faut que ce soit un business de masse, parce que le développeur va pas payer beaucoup, ou alors il faut que ce soit juste une stratégie, un cheval de Troie, pour en fait derrière pouvoir aller vendre probablement à d'autres personas plus business et beaucoup plus cher. Bon, c'est un bon exemple en France d'une belle boîte qui a réussi là-dessus, c'est Algolia,
ouais,
moteur de recherche. En tant que développeur, souvent on se dit « Ah, c'est un super outil pour développeurs avec une API, ça coûte rien, ça me coûte $29 ». Oui, mais la réalité, c'est qu'un Algolia, il va pas vendre à des développeurs. Le développeur, c'est l'utilisateur, c'est celui qui est un bon évangélisateur de la techno. Mm-hmm. Mais celui qui va acheter, ça va être probablement plutôt quelqu'un au marketing, au commerce, parce que ça améliore la performance finale du e-commerce.
Complètement.
Parce que la recherche va plus vite. Donc, faut trouver cette passerelle-là. Et là, sur ce qui nous intéresse, effectivement, tu as deux aspects. Tu as un aspect, on va dire, encore très technique, qui est plutôt le monitoring, s'assurer que ça fonctionne. Parce que si ça fonctionne pas, et en fait, la question la plus intéressante, c'est si ça fonctionne pas, qui est impacté?
Okay.
Et si ça fonctionne pas, bah potentiellement je perds du chiffre d'affaires, parce qu'en fait, je peux pas encaisser, je perds du chiffre d'affaires. Il y a des exemples beaucoup plus, beaucoup moins directs, mais qui reviennent au même. Ouais. L'été dernier, Zoom, qu'au final on utilise à peu près tous maintenant, a été down pendant plusieurs heures.
Mm-hmm.
GitLab aussi. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, les deux utilisent une API qui est Zuora, qui est une API d'encaissement d'ailleurs.
D'accord.
Et en fait, ils utilisent cette API pour contrôler beaucoup de choses. Si t'es client, si t'as accès, etc. Et en fait, ils ont jamais fait d'assessment de l'impact de l'utilisation de cette API. Et l'API était down, leurs soft ont été complètement down pendant plusieurs heures.
Ouais.
Ce qui paraît totalement aberrant, mais c'est la réalité. Et pourquoi? Parce qu'en fait, en tant que développeur, on va utiliser ces API parce qu'on nous le demande, parce que c'est comme ça qu'il faut faire et tout. Mais au bout de la chaîne, est-ce que quelqu'un s'est posé concrètement la question de qu'est-ce qui allait se passer si jamais on peut plus utiliser cette API, si elle marche plus, c'est quoi son impact business, est-ce qu'on a un plan de continuité, comment est-ce qu'on fait concrètement? Et c'est des questions difficiles parce qu'aujourd'hui c'est très caché dans le software, on fait des softwares qui sont compliqués, qui ont beaucoup d'API, les développeurs qui font ce travail-là doivent le faire vite en plus, on leur demande de le faire de plus en plus vite, et qu'en fait c'est plein d'étages au-dessus qui vont être impactés et c'est très difficile de faire remonter cette information. Et l'autre exemple associé, c'est celui de la sécurité en fait. Mmh. Et c'est celui-ci celui de la compliance ou de la privacy. C'est les deux mélangés. Aujourd'hui, par exemple, t'es dans un monde, en Europe, mais au global, dans le monde entier, ça arrive de partout, qui est régulé par la RGPD entre autres.
Mmh, tout à fait.
Échanger de la donnée, c'est l'élément le plus problématique dans le monde de la privacy. C'est mais quelles données t'échanges?
Mmh.
Avec qui? Pour quelle raison?
Est-ce que c'est sécurisé?
Il y a le est-ce que c'est sécurisé et est-ce que on a une justification pour échanger cette donnée, ouais, avec telle personne? Là, je voyais hier effectivement. Alors, est-ce que c'est un problématique de privacy ou de sécurité? Des fois, c'est toujours difficile de faire la frontière entre les deux. Mais Clubhouse, que tout le monde utilise,
ouais,
a priori, effectivement, les transcripts se retrouvent en Chine. Pourquoi? Voilà. Ça, c'est et il y a des autorités de régulation qui se posent ces questions-là. Il y a des autorités autres que régulation, mais même plus contraignantes comme la FTC aux États-Unis, qui vont mettre des amendes, comme, ouais, le scandale de Cambridge Analytica, par exemple, une amende de 5 milliards derrière. Parce qu'en fait, on a partagé de la donnée parce qu'il y a une API, parce que c'est comme ça qu'on le fait. Mais voilà, c'est des impacts qui sont un peu plus haut niveau, basés sur l'évolution de comment on fait du software et de l'usage des API, et qui fondamentalement, forcément, en termes de valeur et d'impact, sont probablement encore plus important que ça prend un peu de temps à intégrer ou on pourrait l'intégrer peut-être un peu mieux.
Ouais, donc du coup en fait finalement là vous orientez votre produit sur des problèmes qui sont pas purement techniques, même si la base évidemment,
exactement,
elle est technique, c'est une intégration et c'est l'orientation qu'on prend dans le développement de logiciels.
C'est tout à fait ça. Et comment tu fais le lien entre, et je pense que c'est le plus gros enjeu et ça va être de plus en plus l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on comprend comment sont construits ces softwares et quels vont être leurs impacts en termes de sécu, en termes de privacy, en termes de availability.
Okay.
Et parce que c'est des couches et c'est des strates qui ne se parlent pas forcément, mm-hmm, dans la boîte. Ou alors c'est très difficile à creuser ou à regarder quand t'as des millions de lignes de code, quand t'as des centaines de projets, quand t'as des nouveaux projets tous les jours. C'est très difficile parce qu'à la fin, c'est une histoire de documentation, c'est une histoire de risk assessment, c'est une histoire d'impact assessment, tout ça. Et c'est difficile de le faire tout le temps, au bon moment, sans embêter trop de personnes. Donc c'est un mix de c'est la techno qui est l'enabler et qui est un peu l'allumette, on va dire, mm-hmm. la façon dont on fait, et qu'après, il y a des process à mettre en place, et il y a de l'intelligence à rajouter.
J'ai l'impression, en tout cas, que le time to market est assez pertinent, puisqu'on est dans un moment, effectivement, où on a des API de partout. Que moi, je parlais encore à un copain qui a lancé une belle boîte dans la logistique, et en fait, ils ont un super logiciel pour calculer les trajets, les transports, etc. Mais ils se rendent compte que le vendre par API, et donc finalement, quand t'as un trajet à faire, t'envoies le trajet, eux, leur logiciel calcule et te renvoie l'itinéraire, donc c'est cette communication, est presque plus intéressant en modèle économique. Et là, c'est une API qui est vendue. Et donc, du coup, et j'en vois de plus en plus, tu parlais de SendGrid, mais ou les autres comme ça, qui est-ce qui aujourd'hui, en développant un logiciel, va redévelopper toute la partie email transactionnelle? Non, en fait, on...
Personne. Voilà. Et d'ailleurs, tu as le même... Alors, on voit souvent ça sous le prisme très startup.
Ouais.
Parce qu'il y a beaucoup de startups qui développent ces API first product. Mais il y a le prisme enterprise qui est très intéressant. C'est que on le voit sur les banques, mais pas que les banques. L'assurance, la santé, le travel, par exemple, aussi. C'est des verticales et des secteurs qui sont très gros, qui ont des super assets. Et ils savent qu'ils ont ces super assets. Mais par contre, c'est pas forcément toujours les meilleurs pour faire ce qu'on appelle le last mile. Faire la super appli mobile qui va l'utiliser, faire le bon produit pour l'utilisateur final. Mais par contre, ils ont ce savoir-faire. Ils ont ces assets. Et du coup, toute la réflexion dans ces boîtes aujourd'hui, c'est comment est-ce que on transforme tout ça sous forme d'une API et on en fait un produit et on permet une nouvelle génération de boîtes. Et si aujourd'hui on a plein de fintech, c'est parce que derrière, il y a plein d'API et il y a aussi des banques plus traditionnelles et des services financiers plus old school qui sont derrière pour les soutenir.
Complètement, ouais.
Et c'est pareil dans tous les domaines. Et donc, c'est pas juste un sujet de startup, loin de là. D'ailleurs, il y a peut-être d'ailleurs plus de startups qui se créent grâce à ces API de boîtes plus classiques que d'API de startups qui se lancent. C'est probablement un mix des deux. Et c'est là où on voit que le monde dans lequel on vit aujourd'hui a plein d'interdépendances, mais c'est vraiment que le début. Si on se projette à 10 ans, ça va être gigantesque. Et quand on fait aujourd'hui, effectivement, sur n'importe quelle appli, n'importe quel device, on utilise une appli, c'est des dizaines d'API qui sont derrière, des dizaines, des centaines de calls, et donc de partage d'informations, de problématiques de sécu, de problématiques de privacy, de problématiques de availability. Et c'est là où il faut pas que tout ça explose. Et si on s'en occupe pas, ça va exploser. Parce que ça explose déjà par petits bouts à petits endroits.
C'est les exemples que tu donnais aussi.
Exactement. Et c'est vraiment que le début.
Okay.
Et on a beaucoup de choses à faire en termes d'éducation. Et je pense que la régulation, qui peut être vue comme quelque chose de très négatif, faut pas le voir comme quelque chose de négatif. C'est heureusement qu'il y a de la régulation. Heureusement qu'il y a des personnes qui sont là aussi pour dire attention, il y a des bonnes pratiques. Par contre, la question, c'est derrière, il faut avoir des solutions qui permettent de les mettre en place et qui soient pas trop coûteuses ou qui te ralentissent, parce que sinon, effectivement, là, il y a d'autres enjeux et d'autres problématiques business.
OK. Il y avait un autre sujet que je voulais, sur lequel je voulais t'interroger par rapport à Bearer. C'est le choix que tu as fait ou que vous avez fait, en tout cas, d'être en officeless, tout le monde à distance. Donc il y a eu d'autres précédents, il y a eu d'autres boîtes comme ça.
Complètement.
Mais du coup, j'ai l'impression, alors en dehors du contexte sanitaire, mais j'ai l'impression que c'est aussi une tendance, qui est de plus en plus marquée. Alors soit complètement, soit au moins en partie. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est pas de moins en moins rare, en tout cas, de dire tiens, je vais recruter tel profil qui est à l'autre bout de la planète, mais au moins j'ai un talent, ça m'ouvre plus de perspectives aussi. La concurrence est rude.
Complètement.
Est-ce que c'est ça les raisons qui
font
que...
Alors les raisons sont... Il y a un mix de raisons personnelles et pragmatiques.
Okay.
Chez Vedeclic, que j'ai monté, comme on disait, en 2007,
ouais.
En 2015, une des raisons pour lesquelles aussi je voulais partir à un moment, au-delà du fait ça fait longtemps, t'es fatigué, t'as envie de faire autre chose, t'as envie de voir autre chose, c'est la contrainte géographique.
D'accord.
La boîte était en France, à Paris. Moi, je voulais potentiellement bouger. Et je savais que j'avais ces deux boulets au pied. C'était pas possible, en fait. On n'avait pas cette culture. Le staff était dans un bureau, mes équipes étaient dans ce bureau. Si moi, le lendemain, je disais, écoute, je vais partir vivre à Tokyo, compliqué. Ça m'a beaucoup pesé.
Okay.
Et donc, quand j'ai remonté, je me suis dit, ça, c'est hors de question que je m'auto-enchaîne. C'est ma
D'accord.
propre boîte. Si en plus, c'est ma propre boîte et il y a plein d'avantages, mais il y a aussi plein de contraintes quand on monte une boîte, faut quand même pas l'oublier. Faut pas que celle-ci, elle revienne. Donc, je veux monter une boîte remote. J'avais expérimenté une partie de remote du coup chez Skillsoft parce que j'avais des équipes qui étaient vraiment sur un fuseau horaire de 12 heures d'écart entre tout le monde, plus de l'Inde jusqu'aux US. Et donc j'avais un peu expérimenté ça, mais je voulais aller plus loin. Et en parallèle, mon associé à l'époque travaillait à Édimbourg. Donc de façon, on allait monter la boîte ensemble à distance. Même s'il allait probablement revenir en France après, on allait la monter comme ça ensemble à distance. Lui, il avait une très bonne expertise du remote parce que avant de rejoindre sa boîte à Édimbourg, il avait bossé depuis 3-4 ans avant, depuis la France, pour cette boîte en full remote. C'est une boîte qui a pas mal d'expertise là-dessus. Donc il avait aussi cette expérience-là. Donc de façon pragmatique et concrète, on s'est dit, ok, ça c'est comme ça qu'on a envie de le faire. Et en plus après, quand on a commencé à regarder notre carnet d'adresses en termes de personnes qu'on voulait recruter, bah mécaniquement, vu qu'on avait pas mal d'expérience, on a un peu gravité, on avait des gens très très bons qui étaient un peu de partout. Et on s'est dit, on va pas se limiter à un périmètre. Moi, j'ai recruté pendant des années dans le périmètre parisien. Tu vois que c'est petit, donc t'as pas forcément les meilleurs. Tu payes peut-être un peu cher, t'es en concurrence avec des potes avec qui tu voudrais pas être en concurrence, etc. Et puis, c'est pas notre façon de vouloir faire les choses.
Okay.
Donc, voilà, on s'est dit, on fait ça en full remote. Et notre vocation, c'est, on fait une boîte qui a probablement beaucoup plus d'avenir outre-Atlantique. Donc, dans tous les cas, il va falloir qu'on ait une boîte qui soit parfaitement adéquate pour parler anglais. Tout est fait en anglais. Tout doit être asynchrone au maximum. Faisons ça dès le début. Ça sera beaucoup plus facile d'y arriver après, du coup. Parce qu'on a vu beaucoup de boîtes qui ont fait ce changement a posteriori et ça a souvent été difficile.
Dès la naissance, choix. En fait, vous êtes déjà mis, vous êtes prêt pour les États-Unis, quoi. Enfin, dans l'idée.
Exactement. On est prêt pour n'importe quoi. On était prêt pour le Covid, qu'on n'avait pas du tout prévu, je tiens à préciser, qui effectivement pour nous de ce point de vue-là ne l'a pas du tout impacté. Notre seul impact, c'est qu'on fait souvent des offsites, on essaie de se voir tous les quarters ou des choses. Bon, ça, c'était plus dur mécaniquement, mais c'est vrai que toute la boîte est organisée pour fonctionner de cette façon-là, qui a énormément d'avantages. Quelques contraintes mécaniquement, mais c'est vraiment la raison originelle, c'est le pragmatisme. Et la volonté personnelle de faire quelque chose aussi de différent que j'ai jamais pu faire avant, du coup.
Ok, super. Écoute, on a fait un bon tour d'horizon. J'ai peut-être une ou deux dernières questions pour toi. Il y en a une qui est relative à tes investissements parce que du coup, on le disait rapidement que par contact relationnel, etc., tu t'es retrouvé à investir dans des boîtes. Et là-dessus, est-ce que tu me disais un peu en off que t'arrivais très tôt, généralement dans ces boîtes.
Souvent,
en tout cas, a priori. Et est-ce que tu peux revenir un peu sur tes critères? Bien sûr, c'est des rencontres, c'est des choses fortuites, mais est-ce qu'à un moment donné, tu objectives un petit peu ça pour te dire, OK, là, c'est un go, là, c'est un no-go?
Non, je pense que c'est jamais très objectif.
D'accord.
Enfin, oui, je pense. On essaie de l'objectiver, mais à la fin, je suis pas sûr que ce soit très objectif. Clairement, tout part souvent d'une rencontre, parce qu'en fait, surtout quand on investit early stage, alors moi en général, j'investis pré-seed ou seed.
Ok.
Mais voilà. Après, de toute façon, le montant de mes tickets, non, on n'a pas d'intérêt. Et enfin, ce que je peux apporter une boîte à aucun
intérêt. C'est quelle heure à peu près si tu acceptes
En moyenne, je pense que c'est autour de 20-25K. Donc des fois plus, des fois moins. Ça dépend aussi de la place, de la disponibilité. Il y a des deals où c'est très difficile d'avoir de la place. Il y a des deals où il y a plus de place. Enfin, ça dépend à chaque fois de l'anatomie du deal. Donc clairement, on investit dans des entrepreneurs. À ce stage-là, c'est les entrepreneurs qui sont super importants. Donc il faut se dire, je crois en ces personnes, je pourrais monter une boîte avec ces gens-là, je pense qu'ils vont donner le maximum d'eux-mêmes, ils y croient, ça c'est vraiment, et c'est des gens où fondamentalement, oui, je monterais une boîte avec eux, donc c'est des, ce que j'appellerais, tu vois, des bonnes personnes, des gens où, tu vois, où j'ai confiance, je suis serein, etc. Ça c'est essentiel pour moi. Ensuite, oui, il y a le marché, il y a potentiellement le produit. Alors le produit, quand on est pré-seed, le produit c'est très vague, parce que ça change, ça pivote, et c'est normal, et c'est pour ça qu'il faut avoir des fondateurs qui soient vraiment animés d'un désir fort d'entrepreneuriat, de se battre, d'avoir du grit, de dépasser leurs limites et d'aller là où le vent les mènera. Et donc le marché, le produit, voilà, c'est important. Mais c'est pas essentiel.
D'accord.
Et j'investirais pas s'il y a un super produit, un super marché, mais pas des fondateurs dans lesquels je crois. Donc je pense que c'est peut-être deux tiers, un tiers, on va dire.
D'accord. Okay.
On va dire deux tiers, un tiers. Et puis après, il y a toujours un aspect affectif, de gens que tu connais, de domaines où peut-être même tu te dis c'est pas forcément un domaine qui va exploser, mais je trouve ça intéressant. Et puis il y en a besoin et ça fera ce que ça fera. Et dans tous les cas, ce type d'investissement, tu les fais en te disant tu reverras probablement jamais ton argent, c'est pas grave. Même si bien évidemment à la fin il faudra que ça,
ouais, il faudrait qu'il y ait un ou deux deals qui fonctionnent aussi pour rattraper.
Idéalement, faut que tu retrouves tes billes. C'est quand même important. Et je pense que j'ai la chance aujourd'hui, si je regarde les quelques bonnes dans lesquelles j'ai investi, je pense que c'est très très positif. Mais on est dans une période aussi où c'est très fast, donc je pense que les multiples sont intéressants. Mais la réalité, c'est que dès que je l'ai fait dès le début, je me suis dit, si je perds cet argent, franchement, c'est pas grave. C'est pas de l'argent dont j'ai besoin. Sinon, je n'investirai pas là-dedans.
Okay.
Et c'est somme toute beaucoup plus intéressant d'investir là-dedans que dans des bitcoins. Ou à part regarder ton compte Coinbase et espérer que ça monte, et t'as aucune idée de pourquoi, comment, et est-ce que c'est intéressant, et est-ce que d'un point de vue sociétal, est-ce que d'un point de vue, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière? Est-ce que t'es content quand tu
de l'impact,
alors que tu vois effectivement de pouvoir voir ces entrepreneurs de temps en temps, d'avoir des news, de voir les reports, de voir si des fois tu peux les aider. Il faut être super humble là-dessus parce que je pense que on n'aide pas beaucoup, mais de temps en temps, s'il y a une question particulière, si tu peux mettre le bon contact, la bonne personne, bah c'est cool. Et voilà, mais ta contribution est somme toute très petite, et ta contribution première, souvent, c'est quand même l'argent.
D'accord.
Et parce que l'argent, c'est important. Ouais, c'est important. Le nerf de la guerre pour monter démarrer ces projets-là. Donc, ouais. Voilà, je pense que c'est un peu ma philosophie d'investissement, s'il fallait essayer de la décrire. Donc, voilà. Elle est pas très objective.
Sur la fin, moi, j'aime bien poser une question un peu plus personnelle, même si là, peut-être que la stratégie d'investissement en fait partie. Mais l'impression que tu m'as donnée quand on a préparé ce podcast, c'est de quelqu'un d'assez analytique. C'est pour ça que j'ai sorti le mot tout à l'heure. D'assez direct. Enfin, tu vois, tu m'as donné cette impression de on tergiverse pas trop. C'est-à-dire, ouais, voilà, hop, on fixe un rendez-vous, ça m'intéresse pas, telle heure, ok, on a un talk, 20 minutes, ensuite, on se cale là. Tu vois, et ça m'a donné cette impression que, voilà, c'est très bien organisé, structuré, ouais, tu sais où tu vas. Est-ce que d'abord, tu es d'accord avec cette impression que j'ai? Est-ce que tu te vis comme ça?
Ouais, bah, si j'entends les gens autour de moi, est-ce qu'ils disent oui, oui, okay. Oui, et en fait, la réalité, c'est si c'est pas assez cadré, assez structuré,
ça te parle pas, quoi.
Ouais, et puis ça me... Je sais pas si à l'origine c'est parce que tu te dis que ça t'es stressé quand tu maîtrises pas l'environnement, et probablement, je pense, tu vois.
D'accord.
Et donc du coup tu essaies de maîtriser ton environnement, et quand tu maîtrises ton environnement, du coup t'es plus à même de donner le meilleur de toi-même. Et donc effectivement j'aime bien que les choses soient carrées, en fait.
D'accord.
Je trouve ça important. C'est, je pense que je saoule mes équipes souvent sur ces sujets-là, mais tu vois, même quand il y a des documents, des trucs comme ça, j'aime bien que ce soit carré, que ce soit propre, que ce soit bien, que l'information soit bien structurée et tout. Je trouve c'est important, et c'est intéressant, et ça enlève pas forcément de créativité, loin de là, parce que j'aime beaucoup tout l'aspect créatif que tu peux avoir derrière. Mais oui.
Est-ce que toi, tu t'imposes quelque chose justement dans ce genre-là? Est-ce que
effectivement, moi, ma philosophie, c'est d'essayer toujours de demander ce que moi-même je fais. Ce qui est pas toujours forcément évident et facile, et ce qui est par contre facile à dire, en effet, mais c'est d'essayer d'être juste, effectivement, de demander ce que toi aussi tu t'appliques à toi-même.
Ouais.
C'est important. C'est important, et dans tout, que ce soit professionnel ou personnel. Tu vois, moi j'aime bien toujours être à l'heure. Tu vois, par exemple, moi mes passions, j'adore la cuisine, etc. Mais je fais ça de façon très scientifique.
D'accord.
C'est un mode de vie d'une façon ou d'une autre. Okay. Et c'est comme ça que je me sens bien, même si des fois, effectivement, de ne rien avoir de prévu, bah tu vois, typiquement quand j'ai pris 9 mois off, ou je suis parti par exemple un mois et demi à Bali avec pas vraiment de plan,
ouais,
c'était super agréable, c'était super reposant, mais
ça va un moment, c'est à dire qu'après il faut revenir. Ouais, je comprends.
Ouais, voilà, c'est ça, c'est bizarre, hein. Quand on réfléchit à comment on est, c'est un peu bizarre.
Mais... bon, mais écoute, c'était un peu le sentiment que tu m'avais donné et que je voulais confirmer avec toi. Et en fait, j'ai juste un truc aussi qui me traverse l'esprit là, j'ai pas trouvé, c'est un homonyme, hein, Guillaume Montard, sur un livre. Je cherche, en fait, là je reprends un peu mes notes, et tu vas me dire si c'est toi, mon aide-mémoire pour utiliser Internet. C'est toi qui as publié ce bouquin.
Excellent. C'est publié en quoi, 2006, un truc comme ça, je crois.
2006 ou 2007.
2006 ou 2007, en fait, c'était l'une des parties des fruits de la rencontre avec mes deux associés sur VDClic. Ce que je disais, c'est que Xavier, qui avait monté cette société de services à la personne, avait aussi, en partenariat avec les éditions First, donc les éditions qui font les nuls,
d'accord,
les
ouais,
nuls, monté une gamme de livres sur ces outils de formation digitaux. Et du coup, j'en ai écrit un, en génial, fait, pour eux sur la gamme. Et c'est une expérience intéressante. Pour être honnête, j'étais encore en école d'ingé. J'ai dû en vendre 6 ou 7 000. Wow. Donc en fait c'est assez rémunérateur pour le temps passé, pour être honnête.
D'accord.
Mais c'est aussi une expérience marrante et oui, je pourrais dire j'ai écrit un bouquin. Alors après voilà, ouais, c'est un bouquin un tutoriel sous forme imprimée que tu peux acheter à la Fnac, voilà. C'est surtout okay, ça. Mais oui.
Bah écoute, c'est sympa. Je me posais la question, je me disais est-ce que c'est lui, c'est pas
non,
lui,
il y en a pas, j'ai pas d'homonyme, okay. Les Montars, il y en a pas beaucoup et des Guillaume, il y en a qu'un seul.
Okay. Alors,
en tout cas, à ma connaissance.
Bon, et ben écoute, je suis très content d'avoir reçu le seul Guillaume Montard sur ce podcast.
Écoute, merci beaucoup, merci à toi pour m'avoir reçu, puis bah j'espère que ça a été intéressant
et que ouais, c'était un vrai plaisir.
Pour l'ensemble ouais, des personnes qui écoutent et ça peut donner des idées, pour moi c'est le plus important.
Ouais, j'imagine. Je ferai dans le transcript peut-être quelques traductions de nos anglicismes respectifs.
Ouais, alors, désolé, effectivement, moi je travaille en anglais toute la journée parce que mes équipes ne sont, enfin 95% de mes équipes sont anglophones, yes, donc effectivement c'est un enfer effectivement des fois sur certains ouais, sur certains termes, mais désolé, c'est pas du snobisme.
Bon, mais écoute, merci beaucoup Guillaume et à très bientôt.
Merci à toi, au revoir.
Salut. Bravo, vous avez écouté l'épisode dans son intégralité. Alors si vous êtes arrivé là, j'imagine que vous avez dû l'apprécier. Du coup, je vous invite à me laisser un commentaire positif et une note sur Apple Podcast. Ça aide d'autres personnes à découvrir DOT et bien sûr, ça me permet de gagner de nouveaux auditeurs. Et si vous avez vraiment adoré l'épisode, ben vous pouvez aussi le partager à une personne de votre entourage et lui faire découvrir. Alors, je voulais également profiter de ce moment pour vous dire un grand merci parce que je reçois de plus en plus de messages de soutien et ça m'encourage énormément dans ma démarche et le temps que je consacre à ce projet. Je vous dis à très bientôt sur DOT.